Je suis heureuse d'accueillir ce soir d'abord le romancier, le philosophe brusselien.
Oui.
Et puis aussi Julien Farge, qui est philosophe également, chercheur à l'École normale supérieure. Bruce Bégout est également philosophe et enseigne à Bordeaux.
Oui.
Aussi, à Bordeaux. Tous les deux aussi grands connaisseurs de Husserl, et dont il est question dans ce livre qui est, ça c'est intéressant, pour une fois, sous forme de roman, on raconte une histoire liée à la philosophie, aux archives de la philosophie, aux archives de Husserl, qui ont pu être sauvées. Bon, on parle aussi de temps en temps du grand maître Heidegger, qui, et son rôle aussi dans toute cette histoire-là, dans les années 30. Je trouve que c'est vraiment une forme intéressante de faire parler de Husserl, de la philosophie et de toutes ces thématiques aussi des années 38.
Oui.
38, c'était 38. Et je pense, même si on n'est pas très nombreux ce soir, je pense qu'on aura l'occasion d'un échange riche. En tout cas, c'est un sujet fascinant. Et je pense qu'il a été aussi reçu avec grand succès aussi. Un livre qui a été édité aux éditions Fayard. Et je pense peut-être, je passe tout de suite la parole pour introduire à Julien Farge.
Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre accueil ce soir. Et merci de nous offrir la possibilité donc, de discuter presque entre nous, de façon simple et cordiale, de ce roman. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il s'agit d'un roman, et on aura l'occasion de revenir, j'imagine, sur certains des aspects qui proviennent du fait qu'il s'agit d'un roman et non pas d'un livre de philosophie à propos d'un philosophe. Et nous avons en fait affaire avec ce livre un objet, au départ, je trouve un petit peu difficile à situer, parce que il s'ancre, il prend racine dans une histoire dont les dates, les faits, les événements sont bien connus, mais se permet aussi, avec cette histoire, quelques écarts ou quelques excursions ou quelques incursions dans des éléments peut-être implicites de cette histoire. Et la forme romanesque est probablement ici au service d'une exploration de ce qui se passe autour, avec, à côté, pourrait-on dire, hein, de l'histoire factuelle telle qu'on pourrait la lire ou telle qu'on pourrait la reconstruire dans une simple chronologie. Alors, pour introduire l'ouvrage, les quelques éléments que j'ai prévus d'exposer, et puis surtout le déroulement du dialogue que j'aimerais qu'on puisse avoir ce soir, je l'ai prévu de telle sorte que nous partions ensemble de ce qui est le plus évident et le plus immédiat extérieurement, cette trame chronologique qui est celle de, finalement, le périple ou l'aventure dans laquelle se lance le père Hermann Leo van Breda lorsqu'il prend la décision de sauver, ou disons de faire ce qu'il peut pour sauver l'héritage husserlien. Donc partir de cet aspect historique extérieur qui va nous permettre de rentrer dans la trame de l'histoire, et puis nous orienter progressivement vers les éléments romanesques, les personnages, les situations, les descriptions, les atmosphères, les éléments de contexte que vous avez évoqués. Et je pense que ce serait une manière intéressante comme ça de faire le tour de l'ouvrage dans ses différents aspects. Alors, il m'a semblé qu'il y avait question par laquelle on pouvait tout de même commencer, Bruce, parce que tu as un peu une double casquette, comme on dit, à la fois philosophe, enseignant, professeur, chercheur en philosophie, et d'un autre côté, si je puis dire, la casquette littéraire, écrivain d'essais, bien sûr, mais aussi des nouvelles et des romans. C'est loin d'être ta première contribution littéraire. Elle s'inscrit, au contraire, cette contribution dans le sillage d'autres écrits qui précèdent, depuis, me semble-t-il, au moins l'année 2004, avec la nouvelle qui s'appelait « L'éblouissement des bords de route ». Et j'ai envie tout de suite de te demander quelle place, est-ce que cet ouvrage, occupe une place particulière pour toi dans ta production, parce qu'il me semble quand même qu'il se trouve un peu à la jonction de tes deux carrières, c'est-à-dire que effectivement philosophe spécialiste de Husserl, du mouvement phénoménologique, écrivain qui privilégie des thèmes, peut-être des thèmes sur lesquels la phénoménologie te permet d'avoir une prise particulière, disons. Mais là, tout de même, le roman porte sur les conditions exceptionnelles qui ont rendu possible dans l'histoire l'existence d'un corpus husserlien qui est finalement le corpus sur lequel tu as travaillé et dont tu es devenu spécialiste. Et donc, est-ce que par cette configuration un peu originale, ce roman, tu le vois comme une espèce de, comment te dire, de rencontre entre ces deux trajectoires, et est-ce qu'il occupe de ce fait une place particulière ?
Ben, écoute, merci Julien. Oui, bien évidemment, d'autant plus particulière que, en fait, l'idée du roman, elle date d'il y a longtemps, même avant l'écriture d'autres romans, parce que dès que j'ai eu connaissance de cette histoire au début des années 90, lorsque j'étais étudiant à l'École normale supérieure et que je commençais à travailler sur Husserl pour ce qu'on appelait à l'époque un DEA, bien évidemment, tout jeune chercheur ne pouvait pas ne pas connaître cette histoire, et parce que, bien évidemment, les archives Husserl, on en parlera peut-être sans doute, sont un lieu quand même particulier à Paris et celle de Louvain. Et quand, donc, au début des années 90, j'avais eu connaissance de cette histoire que j'avais lue. J'avais lu le récit de Van Breda dans le recueil de 59. Tout de suite, je m'étais dit qu'un jour, j'en ferais un roman. Et je faisais même attention presque chaque année à ce que personne ne me pique l'idée pour dire, là, il y a un récit tellement fabuleux que je le couvais comme ça, de manière discrète et clandestine, pour en faire un roman un jour. Et puis, au fond, j'ai tardé, enfin, même si j'avais pris des notes, même si j'ai retrouvé des vieux cahiers qui datent vraiment du milieu des années 90, où il y avait déjà des esquisses comme ça, en fait j'ai beaucoup tardé pour écrire ce roman, et de fait j'ai écrit d'autres romans ou nouvelles avant. Et ce que j'avais écrit avant en littérature relevait plutôt d'un genre, on peut dire anticipation, science-fiction, enfin quelque chose qui n'est pas du tout réaliste. Et là, je m'attaquais forcément à une réalité historique qui, au fond, était un peu, assez lointaine du style de romans que je pouvais écrire avant. Mais comme, effectivement, bon, j'ai consacré un long temps de mon existence à Husserl, notamment à lire ses manuscrits et à les traduire, parce que, comme vous le savez, bon, ils ont été, comme je le raconte dans le roman, et comme on le sait, ils ont été écrits avec une méthode de sténographie, Gabelsberger, et ils ont été transcrits par des assistants de Husserl, Angrebe et Fink, principalement. Et moi-même, comme Julien, en fait, pour faire nos thèses, on a travailler sur des manuscrits inédits, soit en les consultant à Paris, soit en allant à Louvain. Et donc j'ai quand même passé longtemps de mon existence sur ces manuscrits. Et ce roman, c'était aussi une forme d'hommage un peu à Van Breda, parce que bien évidemment, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, bah, sans doute que ma propre existence, enfin, peu importe mon existence, mais en tout cas, elle aurait été un peu différente. Le fait d'avoir tardé à l'écrire n'était pas parce que je n'y arrivais pas, etc. C'était au fond, je retardais un peu le moment comme ça, un peu solennel, où j'allais en fait rendre hommage à son courage, à son audace, peut-être à son inconscience, et puis en même temps peut-être boucler une sorte de boucle du rapport avec cette jeunesse consacrée aux manuscrits de Husserl, et de faire d'une pierre deux coups, un peu comme on dit en français. Quoi.
Ouais. D'accord. Merci. Alors moi, pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans l'ouvrage, j'aimerais prélever une phrase qui, me semble-t-il, donne une espèce de résumé lapidaire, en fait, de l'histoire, non pas du livre, mais de l'histoire en question. De quoi s'agit-il ? Alors, je cite, « De l'histoire ordinaire d'un petit curé têtu qui voulait sauver de l'oubli des papiers philosophiques illisibles. » Voilà, histoire ordinaire. Alors, le mot ordinaire est surprenant. Il est peut-être l'histoire ordinaire d'un petit curé têtu qui voulait sauver de l'oubli des papiers philosophiques illisibles. Alors, évidemment, la formule est prononcée du point de vue d'un personnage sur lequel on reviendra peut-être. Lehmann, celui qui est chargé d'enquêter sur Van Breda. Mais donc, tout ça, pour vous donner ce contexte, ça s'est ramené vraiment à la trame, j'allais dire, narrative minimale. Ce petit curé, cet homme d'église, c'est effectivement un jeune homme, Hermann Leo Van Breda, qui a moins de 30 ans à l'époque, 26-27 ans, c'est ça, et qui a commencé donc une thèse sur Husserl, sur la phénoménologie. Il sait qu'existe...
Sur la réduction.
Il sait qu'existe à Fribourg, un ensemble de manuscrits, ou d'inédits du moins, qu'il lui serait profitable de consulter. Il fait le voyage pour le consulter. Il prend conscience de ce à quoi ressemble en réalité ce fonds posthume d'inédits, c'est-à-dire d'une masse absolument colossale de manuscrits. D'une part, une masse colossale, et deuxièmement, une masse colossale de manuscrits effectivement rédigés en sténogramme illisible pour qui ne sait pas le déchiffrer. Et il prend conscience, donc, en quelque sorte, de l'ampleur de ce qu'il y a à consulter, et de façon, peut-être comme tu le disais à l'instant, assez spontanée et peut-être audacieuse ou inconsciente, le projet qu'il avait au départ d'une publication de ce qu'il songeait être quelques inédits, hein, patronnés par son université d'origine à Leuven, devient pratiquement spontanément le projet d'une... mise en sécurité, en quelque sorte, de cet ensemble considérable et de l'organisation de la mise en sécurité. Alors, mettre en sécurité un tel fonds en Allemagne en 1938, ça veut dire beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra. Et ça implique d'emblée une organisation tout à fait complexe qui suppose qu'il soit appuyé d'un côté par la famille, les ayants droit de Husserl, de l'autre côté par toutes sortes d'institutions qui pourraient l'aider en quelque sorte à protéger cet ensemble ou à mettre cet ensemble en sécurité. Et le roman prend en quelque sorte pour trame, pour support, cette trame narrative-là, du moment où Van Breda arrive à Fribourg jusqu'au moment où le récit s'interrompt, ou le roman s'arrête, au moment où les manuscrits sont transférés à l'ambassade.
A priori sauvés.
A priori sauvés. Oui. Voilà. Bon, il y aura d'autres.
Même a posteriori, parce qu'en fait, ils ont été.
De fait.
Tout le monde sait qu'ils ont été sauvés, enfin, donc il n'y a pas de.
Voilà.
Vraiment de suspense.
Alors, moi, juste un
point. Je dis ça parce que ce week-end, je suis invité, alors c'est bizarre, pour ce roman, je suis invité au Festival du Polar de Niort, où je vais présenter ce roman. Alors. Donc je vais être avec des écrivains de polar. Alors ils l'ont lu comme une sorte de polar. Donc bon, c'est... Ah, je sais pas. Oui,
il va falloir que tu veux et que tu t'apprêtes à ce que ce soit.
Donc il n'y a pas vraiment de suspense hein, parce que les manuscrits sont sauvés. Mais bon, ça...
Alors effectivement, la fin est déjà connue en un sens, mais donc on pourra en parler. Alors moi j'aimerais juste quand même souligner une chose qui m'a. Et d'ailleurs ce que tu viens de dire me pousse à te poser cette question. Tu peux peut-être trouver ça un peu étrange, mais je suis parti du fait que. Et ça, c'est lié aussi à une sensibilité personnelle. On a toujours tendance à oublier, enfin à croire que le matériau philosophique sur lequel on travaille est là, disponible, prêt à être lu et travaillé, que les textes nous attendent en quelque sorte. Et on a tendance souvent à oublier qu'il n'y a de textes que parce que des textes ont été édités, que des textes édités, ça veut dire des textes parfois établis, et que quand il s'agit de textes anciens, ce sont des textes établis et qui ont traversé les siècles et qui ont été exposés dans cette traversée à toutes sortes de périls et de conditions parfois complexes de leur transmission. Et du coup, j'ai eu l'impression à un moment que ton roman nous proposait une espèce de version inversée ou symétrique de ce roman fameux qui a aussi été conçu comme un policier, d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Mais où il est question de quoi ? D'un contexte religieux ? Ah, il est question de beaucoup de choses dans ce roman, mais d'un contexte religieux, monacal, dans lequel, à cause d'une histoire locale et finalement accidentelle qui se termine par un accident, c'est-à-dire un incendie, eh bien, cet incendie a pour effet notamment de nous priver ou de priver la postérité de la partie de la poétique d'Aristote consacrée à la comédie. Et Eco se plaît à forger une hypothèse romanesque, en quelque sorte, cohérente en elle-même, pour, en quelque sorte, rendre compte de ce fait que nous avons une partie manquante de l'ouvrage d'Aristote. Et bien ici, c'est l'inverse, d'une certaine manière, c'est un homme d'église, dans un contexte particulier, au milieu de circonstances accidentelles, qui tout d'un coup est pris d'une impulsion, en quelque sorte, dont il ne peut pas forcément rendre compte sur le moment, et qui a pour effet, non pas la disparition, mais le sauvetage et la création après coup d'un corpus. C'est comme tu viens de le dire, nous n'aurions, toi et moi et d'autres, pas pu travailler, probablement ni de la même façon, ni même peut-être pas travailler du tout dans les mêmes conditions, si, en quelque sorte, cette initiative spectaculaire, accidentelle et spontanée, en quelque sorte, n'avait pas eu lieu. Alors, je ne sais pas ce que ce parallèle t'inspire.
Sauf que d'une certaine manière, Eco s'intéresse un peu quand même à la grande histoire, alors que moi, c'est plutôt la petite histoire, parce que, bon, même si nous adorons Husserl, au fond, à l'échelle du XXe siècle, si les manuscrits avaient été perdus, ça n'aurait pas changé grand-chose, et Van Breda n'a pas sauvé des documents importants pour les armées alliées, n'a pas sauvé des personnes, etc. Donc il n'a pas... C'est pour ça que je parle d'une histoire ordinaire, parce qu'au fond... son geste n'a pas été un geste spectaculaire qui a orienté la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un petit geste perdu dans les interstices, voire dans les souterrains de l'histoire. Et ce qui m'intéressait, c'était justement ce caractère infraordinaire, quasiment de son geste, qui ne le rend que plus valeureux. Enfin, mais c'était d'ailleurs, il y a une exergue tiré de Klemperer, voilà, qui dit au fond, bon, l'histoire, au fond, c'est les petites piqûres de moustiques, quoi. Y a, bon, les grands faits, mais aussi les petites piqûres de moustiques. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ces petites piqûres de moustiques. Et effectivement, le Van Breda, oui, c'est un geste impulsif, parce que, comme tu l'as rappelé, bon, il a une petite mission de la part de son doyen, qui est peut-être de consulter quelques textes, d'en ramener quelques-uns pour les publier dans la revue philosophique de Louvain, mais certainement pas de sauver l'ensemble des textes, qui va poser des problèmes de logistique et économique à Louvain, enfin à l'université et à l'Institut supérieur de philosophie, qui sont incapables économiquement de prendre en charge. Donc il y a quelque chose d'impulsif, voire un peu de prétentieux chez Van Breda, qui enfin, on me l'a souvent raconté après, qui au fond met au pied du mur, en fait, son institution, disant tout d'un coup, enfin, il le raconte un peu comme ça, et tout d'un coup, il dit voilà, je vais sauver ces manuscrits, et puis il y arrive. Et donc, ça, c'était intéressant par rapport à la grande histoire, parce qu'on est quand même dans un contexte historique tendu. C'est août-septembre 1938, en pleine crise des Sudètes. Hein. L'Allemagne s'apprête à entrer en guerre, comme d'ailleurs l'Angleterre, la France et Je raconte en parallèle du roman les tractations entre Chamberlain et Hitler, à chaque fois des personnages comme ça qui rappellent qu'il est à Berchtesgaden, qu'il est ici, comme ça. La question d'ailleurs des Sudètes, puisque un ancien ami, enfin, le fils d'un ancien ami de Husserl, Masaryk, était l'ambassadeur tchèque en Angleterre, et c'est lui le premier qui apprend qu'au fond, l'Angleterre et la France abandonnent un peu la Tchécoslovaquie, puisqu'ils acceptent l'annexion de la partie des Sudètes, etc. Donc il y a tout ce contexte historique très lourd, renforcé par un climat, alors là au sein, un climat physique, puisque caniculaire, parce que je me suis renseigné visiblement, août-septembre 38, il a fait très chaud. Donc il y a une sorte de climat comme ça, à la fois de lourdeur historique, de chaleur, etc. Et ce petit homme, enfin petit non parce qu'il est grand, mais dans sa soutane de franciscain, comme ça, lui, au fond, dans ce labyrinthe de l'histoire, lui, il avance droit. Il dit « je vais sauver ces manuscrits » et il les sauve. Et ce qui m'a toujours frappé, même dans le texte que tu as amené, qui est en fait le récit de son sauvetage, hein, qui est très sobre, et c'est pour ça que ça m'avait un peu intéressé, parce qu'en fait, il ne dit pas grand-chose.
Ça vient d'être réédité, voilà.
Ah, il ne dit pas grand-chose, et moi, en fait, je me suis engouffré dans tous les non-dits du texte. À un moment donné, il dit « j'avais l'impression d'être suivi ». Et donc, hop, ça m'a donné l'idée, justement, d'inventer un personnage qui va le suivre, de la Gestapo, etc. Et lui, il fait preuve d'une sorte de détermination, voire d'obstination, alors qu'au fond, tout aurait dû le conduire à renoncer son institution, le contexte historique, les risques qu'il prend, parce que le roman est aussi articulé à toute la politique anticatholique des nazis. Comme prêtre, forcément, il prend des risques. D'ailleurs, à un moment donné, et ça c'est vrai, parce qu'il le dit de manière très discrète, et il était accueilli dans un couvent franciscain à Fribourg, le temps de au départ parce qu'il devait venir faire des recherches, puis le temps de ce sauvetage. Et puis, bien évidemment, le supérieur du couvent lui dit, mais faites attention, parce que si on sait que vous travaillez au sauvetage de ces manuscrits d'un philosophe juif, etc., ils peuvent fermer le couvent, on peut être envoyé en camp. Il y a beaucoup, je l'indique, à la même époque, il y a beaucoup de catholiques, hein, de moniales, de curés qui sont envoyés dans les camps, etc. Donc, il y a vraiment un contexte très lourd, très difficile. Et Van Breda, lui, il avance comme ça, avec une sorte de d'innocence et d'inconscience, quoi. Donc, Et mon personnage, d'ailleurs, on sait justement, j'ai pas voulu rentrer dans les détails. Donc, il y a très peu de psychologie intérieure sur ce qu'on appellerait ses motivations. Je l'ai traité de manière behavioriste, un peu comme Hemingway ou comme ça. C'est-à-dire, on le voit de l'extérieur, mais on ne sait pas ce qui le motive, précisément parce que à partir du moment où il dit oui, il dit à la veuve de Husserl, Malvina Husserl, je vais vous aider à sauver ces manuscrits. À partir de ce moment-là, il s'engage dans ce projet un peu insensé et il s'y tient. Et tout ce qui se passe autour, au fond, glisse sur lui. Alors, dans mon roman, à la fin, quand même, il commence un peu à paniquer.
Oui, c'est ça, on en reparlera aussi.
Au début, il est quand même assez confiant. Puis peu à peu, parce qu'il y a des échecs. Enfin, tout
il perd un peu les pédales.
Voilà, à un moment donné, il y a quand même une sorte d'angoisse. D'ailleurs, juste au moment d'ailleurs, de la conférence de Munich, parce que j'ai un peu modifié la chronologie pour que ça coïncide, que mon dénouement coïncide quasiment avec la conférence de Munich, mais bon, il est voilà. Et c'était ce qui m'intéressait, c'était le contraste entre cet homme d'église dont on sait peu de choses, hein, que je traite d'ailleurs comme une sorte de héros de film noir américain, je le dis d'emblée, et puis ce contexte chaotique, quoi, incompréhensible, quoi, qui aurait dû l'effrayer et bon, qui ne l'effraie pas. Ouais.
Alors je peux éventuellement lire une page qui me semble illustrer exactement ce que tu viens de dire. On est dans le chapitre 21, mais peu importe, page 189. Et il est question, donc, on vient juste... Van Breda vient juste de suggérer à la veuve de Husserl et à ses assistants qui étaient là l'hypothèse d'un salut diplomatique ou d'un sauvetage diplomatique faisant usage des ressources que les ambassades ont de transmettre les documents de façon confidentielle et sûre.
Ce qu'on appelle l'extraterritorialité.
Exactement. Voilà. Et la fameuse valise
diplomatique.
Ouais. Et là, effectivement, c'est à ce moment-là que tu écris le paragraphe suivant. « Si Van Breda se jette ainsi la tête la première dans l'arène de l'histoire, ce n'est pas qu'il fasse preuve de l'excès d'assurance caractéristique du jeune homme intrépide. C'est surtout qu'il n'a pas assez d'imagination pour se figurer ce qu'il attend peut-être au bout. » L'arrestation, l'interrogatoire, la privation, la torture, la déportation, la mort bête et absurde dans un baraquement non chauffé. Son ignorance le préserve comme un voile magique. Au reste, l'héroïsme est composé de 60% de hasard et de 30% d'inconscience, les 10% qui restent relevant de la volonté puérile d'en mettre plein la vue. Parfois, il faut bien le reconnaître, on combat plus efficacement un régime despotique avec l'innocence la plus franche qu'avec la ruse. La candeur est une source d'énergie phénoménale. » Alors là, on voit bien, dans ce portrait, effectivement, ce que peut avoir d'inspirant, justement, la trajectoire de Van Breda au milieu de ce contexte dont tu viens de rappeler les coordonnées.
Oui, et ça, je crois que, bon, il y a à la fois une sorte de d'exagération de romancier, mais je pense que profondément, quand on lit ce récit, il y avait quelque chose de cet ordre de la candeur. Enfin, il est incapable de se représenter les risques qu'il prend et les sanctions, hein, même la mort qui aurait pu advenir. Et c'est parce que... Et d'ailleurs, à un moment donné, je dis, au fond, c'est Orwell qui dit ceci, au fond, pour comprendre un régime totalitaire, il faut avoir soi-même parfois des tendances totalitaires. Et il dit, c'est pour ça que Jack London, dans Le Talon de Fer, comprend très bien ce qu'est le totalitarisme, parce qu'il y a dans London une forme de socialisme agressif, viril, etc. Et c'est vrai que d'une certaine manière, quelqu'un comme Van Breda, je crois qu'il est ontologiquement incapable de comprendre ce qu'est le totalitarisme. Et c'est parce qu'il est cette ignorance le préserve comme un voile magique. Et inversement, je crois dans le même passage, inversement, ça vaut dans l'autre sens.
Oui.
C'est-à-dire que les nazis eux-mêmes sont incapables de comprendre que quelqu'un puisse agir par pure innocence projetant sur les autres leur propre perversion, calcul, ça, etc. Donc au fond, son innocence le préserve aussi, parce que personne ne penserait que quelqu'un ferait ceci
avec autant de
simplicité, oui, et de sincérité, etc. Donc ça c'est un peu à double tranchant, enfin. Mm. Oui,
c'est ça. Et donc finalement, bon, c'est peut-être, on voit bien dans ce que tu viens de dire aussi, que c'est cette figure de Van Breda qui est ton héros, qui est probablement ici inspirante pour le romancier, parce que c'est une trajectoire effectivement apparemment rectiligne, disons dans un contexte chaotique, et puis parce qu'on peut effectivement se demander assez longtemps ce qu'il en était de ses motivations, ce qu'il en était du degré de conscience qu'il avait de ce qu'il était en train de faire, de la conscience qu'il avait de ce qu'il était en train de mettre sur pied. J'aime beaucoup le passage qui est d'ailleurs attesté par Van Breda dans le petit récit qui circule, dans lequel il dit que l'expression « archive ou seul », on va créer des archives ou seul, lui vient comme ça, face à la veuve de Husserl lors de leur deuxième grand entretien. Il ne sait pas trop ce que ça va être, mais enfin, il lâche le mot et le projet est lancé, quoi.
C'est fou. D'ailleurs, bon, le roman ne raconte que le sauvetage des manuscrits, mais l'histoire est aussi rocambolesque après. Parce que, bien évidemment, quand les manuscrits arrivent en Belgique, les armées allemandes arrivent en 40, il faut tout recommencer, cacher les manuscrits dans des fermes, etc. Il n'a pas que sauvé les manuscrits, il a aidé au transfert de la veuve de Husserl, ses assistants. Visiblement, il a aidé aussi, il a sauvé les manuscrits d'Edith Stein, etc. Il a fait plein d'autres choses et tout. Moi, mon récit. Mais pour en revenir au courage, c'est ça qui me semblait fabuleux, c'est qu'en fait, il prend un risque insensé pour sauver des textes, 40 000 pages, de textes qui lui sont illisibles. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas ce qu'il y a dedans, puisqu'il ne connaît pas la méthode Gabelsberger. C'était une méthode que Husserl avait apprise lorsqu'il était étudiant pour prendre des notes très rapidement à Vienne, lorsqu'il était, en fait, il suivait les cours de Brentano et autres, etc. Et donc, Malvin Husserl raconte qu'en fait, il avait appris que depuis, il écrivait... Ce qui fait que même la méthode Gabelsberger, visiblement, en 1938, même plus personne ne la connaît en Allemagne, etc. Et donc, Van Breda, il a 40 000 pages en fait, de manuscrits absolument illisibles, et je m'amuse à imaginer, mais si ça se trouve, c'était des textes... Bon, vous savez, il y a une anecdote célèbre de Gödel, qui était un mathématicien donc, très célèbre, hein, qui lui aussi a fui l'Allemagne nazie, qui a été accueilli à Harvard, et comme c'était un grand mathématicien, Harvard lui a donné un pavillon où il avait le droit de faire ce qu'il voulait, etc. Et à la fin de sa vie, on a trouvé des milliers de pages de manuscrits de Gödel, et en fait, on s'est aperçu que c'était des élucubrations sur les extraterrestres, etc. Pierre Kasounoguès a écrit un livre, c'est très, très génial, qui s'appelle « Les démons de Gödel », etc. Et donc, pour, tout ceci pour dire que peut-être que c'était des élucubrations délirantes de Husserl, et donc, Van Breda risque sa vie pour un texte qu'il ne peut pas lire. D'ailleurs, j'imagine, à un moment donné, voilà, la valise s'ouvre, les textes tombent, et un policier arrive et regarde ces textes et dit « Mais c'est quoi ?» Enfin, ça deviendrait encore plus extraterrestre que... Et donc ça, c'est fou, parce qu'en fait, il prend un risque insensé pour quelque chose dont il est incapable de mesurer l'importance, quoi. Il fait une sorte de pari. Hein. On peut sauver des choses, mais que l'on sait avoir une certaine valeur. Et puis en plus, qui plus est, je dis, voilà, si ces manuscrits n'avaient pas été sauvés, 99,9999% de l'humanité n'aurait eu rien à faire, enfin, à part... Au fond, combien sommes-nous à avoir lu ces manuscrits ? Peut-être 300, 400 personnes depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça n'aurait pas vraiment changé l'histoire. Mais c'est ce contraste entre, au fond, le caractère peu spectaculaire de ce qu'il a à sauver. Hein. Encore une fois, il ne sauve pas des milliers de personnes, il ne sauve pas des documents importants. Et en même temps, quand même, le fait que... Au fond, du point de vue de la culture, tout est bon à sauver. Oui, enfin, il n'y a pas à choisir, etc. Et c'est ça qui m'avait... À un moment donné, d'ailleurs, je dis, mais bon, oui, ça reste quand même un geste héroïque, même si ce qu'il a sauvé peut sembler, au regard de l'histoire, dérisoire. Mais en même temps, ça ne l'est pas pour nous, et ça ne l'était pas pour lui. Et au fond, c'est presque encore plus, je dirais, encore plus beau d'avoir sauvé des choses qui semblaient ne pas être fondamentales, même si, bien évidemment, elles le sont pour nous, mais...
Alors cet aspect des manuscrits, je pense que c'est important effectivement de le souligner. Je sais que sur la petite affiche de la conférence là, qui circulait, il y a quelque chose qui ressemble un peu, si vous la voyez, voilà, c'est ça. Alors, ça ressemble... Ça, c'est une page. Si vous l'avez sous les yeux... alors, il y a un mélange, hein, quand on arrive à le lire. Il n'y a pas que de la sténo là-dessus. Si vous regardez, par exemple, l'avant-dernière ligne, là... du document, enfin, qui est coupé, l'avant-dernière ligne lisible en quelque sorte, c'est écrit en écriture cursive normale, hein. Moi je lis Zeit räumlich Gegenstand, voilà, objet spatio-temporel. Au-dessus, en revanche, occasionnel, on arrive à lire. Ouais. Et puis, c'est quand vous remontez dans les lignes, là, quand c'est souligné en rouge, là, vous voyez des petits signes. Ouais. Et ce sont effectivement les signes sténographiques, ouais, les sténogrammes de la méthode, ouais, que Husserl avait appris.
Et qui plus est, il avait des signes qui lui étaient propres.
Qui lui étaient propres, bien donc, sûr. La méthode n'était pas destinée, ouais, au départ, ouais, à prendre en note, ouais, ou à exprimer... le type de distinction ou le type de distinction que la philosophie pratique et le type d'argumentation, oui, 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 ou le type de discours que, oui, la philosophie,
oui,
développe.
Oui, bien sûr, c'était une méthode sténo pour des secrétaires de direction, tout ça.
Des réunions,
voilà,
des procès.
À un moment donné, j'imagine Van Breuil qui se dit, mais je vais être obligé d'apprendre cette sténo, je vais être obligé d'aller dans une école de sténo avec des jeunes filles à prendre la sténo pour lire les manuscrits.
Pour l'anecdote, le fait est que ce sténogramme continue à être appris, parce qu'il est hors de question qu'on se retrouve entre Husserliens à un moment où plus personne n'est capable, en quelque sorte, de se référer au texte original. D'autant qu'il y a une légende urbaine, si je puis dire, qui circule, qui disent que toutes les transcriptions, mais c'est, après tout, c'est pas étonnant, que toutes les transcriptions de sténogrammes ne sont pas... n'ont pas été infaillibles et ne sont pas sans erreur. Et parfois, les conséquences peuvent être philosophiquement... Alors, on peut toujours corriger, si je puis dire, ou évaluer la pertinence d'un extrait par la connaissance qu'on a du tout. Mais globalement, il peut arriver localement qu'il y ait des erreurs qui soient préjudiciables au sens local du texte. Une confusion entre « sin » et « sein » peut être pénible. Une confusion... voilà, bon. Alors... C'est ce genre de choses. Alors, sachez qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui lisent et qui apprennent à lire la méthode de Gabelsberg pour pouvoir continuer à servir au moins, à pouvoir se tourner vers les manuscrits originaux et contrôler de temps en temps la transcription qui en a été faite. Je crois à ce jour que la totalité ou presque des manuscrits a été transcrite. Alors, édité, non, mais transcrite, oui. C'est-à-dire que le sténogramme a été... traduit en allemand lisible.
Il faut savoir qu'il y avait plus de 40 000 pages de sténogrammes.
Voilà.
Ça faisait à peu près 100 kilos de documents que Van Breda a sauvés. Moi, je m'étais amusé à faire le calcul.
Oui.
À partir du moment où Searle avait fini sa thèse jusqu'à la fin de sa vie, j'avais calculé le nombre de pages écrites divisé par le nombre de jours.
Oui.
J'étais arrivé à 2,8 pages par jour.
Donc, pendant 50 ans.
Pendant 50 ans, voilà, c'est-à-dire, j'ai pas compté les vacances. Et donc... Donc c'était vraiment quelqu'un qui écrivait tous les jours 3-4 pages, en fait.
C'est ça.
Et de textes qui étaient quand même assez denses.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pas des simples impressions de voyage.
On lit à droite et à gauche, et on a utilisé à plusieurs occasions, à propos de Husserl, le mot de graphomanie.
Oui,
quelqu'un qui avait,
oui,
pris l'habitude de ne pas pouvoir penser sans tenir un stylo et sans écrire au fil de sa pensée. Alors il en résulte une masse considérable de documents. Sachant qu'en plus le sténogramme a pour effet de contracter les textes, et que 40 000 pages de sténogramme déployées, si vous voulez, ou traduites, ça fait quelque chose de tout à fait considérable. Et donc je me souviens qu'il y a peu de temps, il y a encore eu un poste à recrutement à Leuven, à Louvain, où dans la fiche de poste il fallait que la personne qui soit recrutée accepte de se voir former à la lecture de Gabelsberg pour pouvoir, en quelque sorte, maintenir ce contact, ce lien avec la forme sous laquelle Husserl a écrit sa pensée pour la première fois, la forme sous laquelle ça sortait. Alors voilà pour...
C'est univoque, la traduction en allemand courant, où il y a des doutes souvent...
Alors, elle n'est jamais présentée, à ma connaissance, de façon équivoque. Une solution interprétative est souvent prise par le transcripteur, mais il arrive quelquefois qu'on ait des appels de notes qui disent « mot abîmé, mot peu lisible, c'est une suggestion ». Bon,
le fait est qu'avant la mort de Husserl, ses assistants avaient commencé déjà ces transcriptions, Landgrebe et Fink, donc ils avaient pu déjà avoir l'aide de Husserl qui leur indiquait... au fond, la précision des termes, etc. Puisque je crois que même à l'époque où Van Breda arrive, sur 40 000 pages, il y en avait presque 10 000
oui, oui.
qui avaient déjà été transcrites. Donc il y avait Husserl est mort en avril 38, Van Breda arrive début août, donc ces 10 000 pages, elles avaient déjà été transcrites avant la mort de Husserl, et sans doute, vu la manière dont Husserl travaillait avec ses assistants, avec l'aide de Husserl, etc. Donc on peut déjà se baser sur l'expertise de Finck et de Landgrebe, qui eux-mêmes avaient... C'est pas comme des manuscrits antiques, où là on n'a pas le philosophe qui est à côté, qui peut oui. indiquer, là, lui-même avait déjà, en fond, formé un peu Finck et Landgrebe à la transcription.
Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle il a suffi que institutionnellement une solution soit trouvée juste avant la guerre pour qu'en 39, même le petit espace qui court entre 39 et 40, Finck et Landgrebe s'installent à Leuven oui, oui. et reprennent sur place, ou continuent sur place, oui, oui. Le travail de transcription oui, oui. qu'ils avaient déjà oui, commencé oui. En amont.
Oui.
En un sens, la machine était déjà oui. Lancée.
Oui, oui. D'ailleurs, Finck est présent dans le roman.
Tout à fait, voilà.
Pas Landgrebe. Mais...
Alors, j'en parlerai justement voilà, tout à l'heure. Parce que globalement, alors moi, ce que je voulais souligner, c'est que, en fait, j'avais l'idée, mais on est déjà en train de le faire, c'est très bien. À la fin du roman, il y a une clause, enfin, hors roman, si je puis dire, parce que là, c'est quasiment un mot d'édition. Ce roman est librement inspiré de la première partie du récit. Voilà. Alors moi, j'aime bien l'expression « librement inspiré » parce que je trouve qu'on peut effectivement la prendre comme fil conducteur. Alors, qu'est-ce qui est inspirant et qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce roman? Je pense qu'on vient d'en parler quand même pas mal. La figure de Van Breda,
oui.
sa candeur, oui. sa détermination qui est proportionnelle à son inconscience peut-être.
Les non-dits dont je parlais dans le texte.
Alors voilà, c'est pour ça. Est-ce que tu peux oui. peut-être revenir oui. les non-dits dans lesquels tu t'es engouffré, en fait, qui étaient comme des appels ou comme des invitations
Oui, ce qui est étonnant dans le récit qu'il fait, donc il a écrit en 56, mais il a été publié qu'en 59. En fait, ça a l'air très simple, quoi, quand il présente ça.
Oui.
Même si, bien évidemment, le contexte est tendu, il évoque assez peu les difficultés qu'il a eues. Enfin, il les évoque un peu, mais... sans vraiment s'apesantir dessus. Et j'ai appris ensuite, le hasard a fait que mon roman était fini à peu près l'an dernier, à la même époque, en juin de l'an dernier, est paru en Belgique, écrit par un écrivain flamand, Toon Oursten, une biographie du père Van Breda, en flamand, qui s'appelle « Le père et le philosophe
voilà. ».
Et en fait, très rapidement, on a été mis en contact, nos deux travaux étaient finis, mais lui, il a fait une biographie de Van Breda, et moi, j'ai fait un roman. Alors même si lui, ça porte sur toute la vie de Van Breda, oui. et pas que sur cet épisode-là, mais c'est quand même le grand épisode de la vie de Van Breda, d'une certaine manière. Et alors, il m'a appris que, parce que lui, il a eu accès à des documents, parce qu'au départ, je voulais me documenter de manière historique. C'est-à-dire que j'ai appelé certains amis ou collègues de Leuven, Rudolf Bernet, Roland Breuer et d'autres... Et ils m'ont dit, mais vous savez, ou Breuer qui me tutoie, il me dit, mais tu sais, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus, quoi. C'était quelqu'un de relativement discret, etc. Et c'est vrai que quand on regarde quand Van Breda est mort dans les années 70, les hommages, etc., les gens ne savent pas trop. Enfin, on n'a pas vraiment d'autres documents que le document de Van Breda. Alors, Oursten, lui... puisqu'il est de la famille assez éloignée de Van Breda, mais il a quand même retrouvé des documents en creusant dans les archives familiales, et il s'est aperçu en fait que Van Breda, pour ne pas fâcher certaines personnes, parce qu'en fait il a écrit ce texte dans les années 56, et dans les années 56, les archives Husserl à Leuven sont encore fragiles institutionnellement. Et pour ne pas froisser certaines personnes, en fait, il a dit très peu de choses dans son récit, parce qu'il aurait pu dire... qu'il a demandé de l'aide à telle ou telle personne, qui lui ont peut claquer la porte au nez. Et ça, il n'a pas voulu le faire pour ne pas créer de l'animosité et que sa position étant encore relativement fragile aux archives, il aurait pu... Toute sa stratégie a été, au contraire, de constituer un réseau de chercheurs internationaux, oui. une sorte de solidarité, et de ne pas se mettre à dos telle ou telle personne. Donc le récit est très simple, parce qu'au fond, il a refoulé ou il a réprimé en fait, tout ce qu'il aurait pu dire et qu'il n'a pas dit, et que Oursten m'a appris. Alors par exemple... une des premières idées de sauvetage était de faire passer les manuscrits en Suisse, parce que comme on va le voir, il y avait une sœur qui était dans l'entourage de Husserl, sœur Adelgundis Jägerschmidt, qui appartenait à une communauté Lioba, qui avait une maison, une résidence secondaire à Constance. Et Constance est tout sur la frontière suisse, hein, et ses sœurs, en fait, travaillaient pour des œuvres de charité en Suisse et en Allemagne. Donc l'idée, c'était peut-être de faire transiter par les sœurs, en cachant les manuscrits, comme ça,
de franchir
la frontière, etc., et de les accueillir en Suisse. Donc ils avaient contacté Binswanger, qui était un psychiatre suisse, spécialiste de phénoménologie, qui avait commencé à travailler sur Husserl et sur Heidegger, etc. Et en fait, Madame Binswanger, visiblement, était une fervente partisane de Hitler et a refusé totalement que les manuscrits... Donc, il a fallu trouver une autre solution. Mais ça, Van Breda ne le dit pas. Parce qu'en 1956, Binswanger est encore une grande figure et il a besoin de lui pour une aide, etc. Enfin, ou en tout cas pour une forme de bienveillance. Donc, en fait, le récit semble un peu déceptif, on pourrait dire, parce que le récit, on voudrait qu'il en dise plus. Et moi, ce qui m'a intéressé, quand je l'ai lu, j'avais 23, 24 ans, enfin, au début des années 90, je me dis, mais voilà, c'est tous ces interstices, ces non-dits qui ont excité mon imagination, mais que s'est-il vraiment passé? Et parce qu'à un moment donné, il parle, voilà, de ce climat d'angoisse, mais...
Il n'en dit pas plus.
Il n'en dit pas plus. Donc moi, mon travail a été, au fond, de réinventer les éléments angoissant, hein, notamment celui qui le suit, qui enquête sur lui, hein, de la section de la Gestapo qui s'occupe des affaires catholiques, qui enquête sur lui, etc. Et d'autres personnages, deux jeunes garçons qui tient un kiosque à journaux à Fribourg, dont l'un est infirme, et qui exprime publiquement son antinazisme, etc. Donc de recréer une sorte de danse d'obscurité, si Van Breda lui est très clair. En fait, je l'ai traité un peu comme une sorte de... Puisqu'on est sous l'égide de Tintin. Enfin, mon idée, c'était la ligne claire. Vous voyez, Van Breda, c'est Tintin. Van Breda n'a pas de sexualité, comme Tintin. C'est un personnage qui n'a pas de psychologie. C'est un personnage lisse. Hein. Mais autour de lui, il y a des aventures. Et donc, c'est une sorte de Tintin comme ça. Alors, il n'a pas un chien, il a un chat, on verra.
Oui, oui, oui.
Mais il est... Et par contre, autour de cette... de ce personnage un peu lisse, comme ça, un peu monolithique, dont on ne sait pas grand-chose, autour de lui, au fond, tout s'agite, tout est brouillé, embrouillé, il y a plein de personnages bizarres qui n'apparaissent qu'une seule fois, qui disparaissent, des animaux, il y a une cartomancienne, etc., enfin, comme ça. Donc, il y a une sorte de climat un peu, au fond, cabaret, allemand, expressionniste, etc. Enfin, j'ai travaillé sur une forme comme ça de contraste de noir et de blanc assez expressionniste, etc. Un peu parfois même le modèle était quasiment pictural, un peu à la Autodix ou à Georg Grosch, comme ça, en jouant avec le grotesque, l'absurde. Et puis Van Breda, lui, dans ce chaos, bon, il est avec sa candeur et il avance juste à Berlin, il commence à paniquer un petit peu, mais sinon, voilà.
C'est ça. Donc en fait. Selon la formule que tu as eue tout à l'heure, pour dire ce qui s'est vraiment passé, il faut écrire un roman. Ce qui, effectivement, est une thèse littéraire.
Pierre Bayard, écrit des livres comme ça.
Bien sûr. Voilà, bien sûr. Alors du coup, je pense qu'on a bien compris l'élément inspirant, finalement, dans cette histoire, et la façon dont le texte de Van Breda, non seulement l'aventure elle-même, telle qu'on peut la raconter, mais le texte de Van Breda, lui aussi, avec ses non-dits, semblait en quelque sorte appeler le complément et... de façon étrange, peut-être le complément de la fiction, si je peux dire, pour compléter.
Parce que le complément des archives, enfin de l'archéologie, ne l'avait pas.
C'est-à-dire
comme il n'y avait quasiment aucun document, ou alors il aurait fallu que je consacre une année de ma vie. Mais quand les collègues belges m'ont dit, mais on n'en sait pas plus que toi, je me suis dit, bon, d'emblée, déjà j'avais la volonté de faire un roman, mais en plus ça a presque apporté de l'eau à mon moulin. Je me suis dit, comme il n'y a quasiment aucun document historique, je vais les inventer. Enfin, je vais inventer la dimension historique, etc. Bon, j'avais déjà fait pour d'autres récits où je mélange souvent documentaire et fiction. J'avais écrit un petit essai sur le motel américain. À la fin, il y avait des entretiens avec des personnes parce que j'avais fait une conférence juste avant de publier le livre à l'école des hautes études en sciences sociales dans un séminaire de sociologie. J'ai présenté ce travail. Beaucoup de sociologues étaient un peu circonspects. Et première question, où sont vos enquêtes de terrain?
Voilà, c'est ça, le protocole et les enquêtes.
Et donc, je n'en avais pas, mais évidemment, je suis philosophe, etc. Donc, je m'étais dit, avant que comme le texte était encore sous presse, j'avais rajouté comme ça des entretiens. Et en fait, les entretiens, je les ai tous inventés. J'avais tout inventé. Et alors, c'est marrant parce que quand le livre s'appelait Lieu commun, il y a eu des recensions dans des revues de sociologie. Il disait, le texte, bon, c'est ses intuitions, tout ça, bon, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, les entretiens, à la fin, sont très intéressants. Mais tout est faux, j'avais tout inventé. Donc souvent, dans beaucoup de textes comme ça, il y a des frontières indéterminées entre documentaire et fiction, et le roman me permettait cela. Et parce que, bien évidemment, je ne voulais pas faire un récit historique, Voilà. Je ne voulais pas faire une enquête, et je voulais, comme ça, que ce marécage dont je parlais soit aussi le marécage du texte, qu'il y ait une sorte d'indétermination. On ne sait pas vraiment dans quel... Même stylistiquement, on ne sait pas vraiment dans quoi on s'engage. Quoi. Enfin,
c'est vrai.
C'est un récit bon, qui suit globalement, chronologiquement, l'histoire de Van Vreda, mais il y a plein de fausses pistes, de choses comme ça... Bon. Et même l'histoire de Saint-François d'Assise, en parallèle.
Oui, justement, voilà, c'est ça. Alors, les éléments de création, parce que tu disais, je disais tout à l'heure qu'il y avait une, comment dire, une, tu as suivi librement, enfin, quelle était l'expression déjà, librement inspiré.
Oui,
alors voilà,
oui,
la liberté, en l'occurrence, elle passe, me semble-t-il, à travers, alors des choses qu'on pourrait pointer en historien en disant, la distance est prise par rapport aux faits. Alors les faits fondamentaux sont bien rappelés. Mais il y a quelques faits avec lesquels tu prends une distance, mais qui n'altèrent pas le contenu de ce que tu as à dire et de ce que tu montres dans le livre. Il y a aussi des personnages qui sont inventés. Alors pour les faits, moi j'avais noté qu'effectivement le voyage du père Van Vreda avec la sœur Adelaudis Jägerschmidt, le voyage tous les deux comme un couple à Constance n'a pas eu lieu. Elle est partie toute seule en réalité, et lui est allé chercher ensuite la valise. Bon, mais ça fait une scène qui a son comique aussi, même si dans le voyage, il y a des éléments graves et un petit peu inquiétants. Là aussi, l'ambiance inquiétante, elle est aussi dans les compartiments du train.
Oui, alors d'ailleurs, c'est à un moment donné, il rencontre, là toujours des personnages secondaires, il rencontre des croque-morts qui vont à une convention funéraire et qui sont très drôles et très amusants.
Voilà.
Et tout. Et donc, ils discutent avec ces gens-là qui, visiblement... lui disent qu'ils ne sont... Parce qu'à un moment donné, le train traverse un peu l'Allemagne, s'arrête dans une petite gare, et puis il y a une sorte de réception pour un dignitaire nazi. Et donc là, Van Vreda regarde ça d'un peu loin, parce qu'il a ses manuscrits quand même avec ses textes clandestins. Et un des croque-morts, enfin, de l'agent des pompes funèbres, voit qu'il est un peu circonspect et lui dit « Mais vous savez, nous-mêmes, au fond, on n'est pas... » Enfin, il lui fait comprendre qu'il n'adhère pas totalement et que même eux, s'ils s'occupent des morts, ils considèrent que ceux qui sont face sur le quai, en train de... ils sont plus du côté de la mort que de la vie, etc. Oui. Donc, bon, ça me permettait comme ça de voilà, il y a plein de petites scénettes.
Dans un voyage qui n'a pas eu lieu.
Alors, c'est amusant parce qu'ils partent tous les deux. Et donc Fink fait un bon mot en disant il a une sorte de couple, quoi. C'est une bonne sœur et un curé.
Donc il y a cette invention-là. Ouais. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une liberté aussi, une prise de distance à la fin du mois de septembre 38 dans les dates.
Oui, oui. J'ai repoussé un petit peu le sortage.
Tu as repoussé le sortage quand même. Donc de deux jours ou quelque chose comme ça.
Oui, oui, c'est à peu près ça.
Mais enfin, c'est là qu'on voit d'une certaine manière que ça ne. Enfin, en un sens, ça ne change rien ou ça te permet.
Parce qu'en fait, il y avait le fameux discours de Hitler au Palais des Sports de Berlin, juste avant la conférence de Munich, discours très virulent, et ça c'est la veille du sauvetage, et donc en fait la scène la veille, Berlin est quasiment vide, tout le monde est chez soi en train d'écouter la radio, le discours de Hitler, et donc c'est ce Berlin vide avec cette voix qui résonne, etc. Et le lendemain, donc le sauvetage est effectif.
A lieu,
Donc voilà, souvent j'ai un peu...
Mais bon,
pour
ça,
des raisons romanesques.
Détail, effectivement, mais on comprend bien. Alors, du côté des personnages, j'aimerais mentionner quand même trois types de personnages, et puis peut-être que tu peux nous en dire. Tu en as quelques-uns que tu as déjà évoqués. Dans ton roman, gravitent en réalité autour de Van Vreda, on pourrait dire, plusieurs catégories. Ceux sans qui, ceux malgré lesquels. Alors, ceux sans qui rien n'aurait été possible, alors qu'ils sont des personnages pour le coup historiques. Il y a son assistant Eugen Fink, dont on peut dire un mot. Il a énormément travaillé avec Husserl. Il est devenu son assistant principal à la fin des années 20, en 28. Et il travaille de manière, dans une espèce d'étroitesse ou de relation d'intimité intellectuelle absolument exceptionnelle.
Oui, c'est quasiment tous les jours. Enfin, voilà. C'est considéré comme un fils, même après le départ du fils de Husserl qui fuit l'Allemagne nazie, qui s'est envoyé en Allemagne. Bon,
voilà.
Un autre fils est mort d'ailleurs lors de la Première Guerre, donc ça devient comme une sorte de fils.
Ils travaillent ensemble. On sait historiquement que Husserl a chargé Fink de rédiger certains papiers. Et il y a la fameuse anecdote sur l'article de 1930 de Fink où Husserl préface et dit il n'y a pas une phrase dans cet article que je ne peux pas considérer comme mienne. Il y a le moment où il confie à Fink la réécriture des méditations cartésiennes données à Paris en 1929.
Il l'avait fait aussi pour Landgrebeu, parce qu'expérience et jugement, c'est une réécriture de Landgrebeu. Il dit
c'est bon, il valide.
Ou même pour Heidegger, pour le sens. Donc il accordait sa confiance.
Exactement. Et puis avec Edith Stein aussi, dans la Première Guerre mondiale. Hein, oui. Il assommait ses assistants avec une masse de manuscrits. Tenez, faites-moi un livre, trouvez-moi un plan. Et globalement, le résultat était souvent validé. Alors, ce travail avec Fink, ici, Fink est présent dans la première partie du roman, même jusqu'au bout. Il me semble que dans les personnages sans qui rien n'aurait été possible, il faut évidemment souligner le rôle de la veuve de Husserl, Malvina Husserl, qui te donne une espèce de...
Oui, une petite bonne femme énergique,
exactement.
Qui est pleine de vitalité.
Et, alors qui me semble être une espèce de double, pas de double de Van Breda, parce qu'elle n'a pas... Mais enfin, elle partage quelque chose avec Van Breda, qui est une espèce de fermeté dans la ligne. Oui. Elle aime bien les décisions qui sont prises sans complexité superflue. Oui. Elle aime bien la clarté. Et une fois qu'elle prend une décision, elle s'y tient. Oui. Elle est prête aussi à prendre des risques.
Oui, parce que Van Breda, il arrive un peu comme un... Même si lui n'a pas l'idée d'être un sauveur, il arrive un peu comme un sauveur, parce qu'elle se trouve isolée par toutes les lois antisémites, etc.
C'est ça.
La guerre est imminente, donc Fribourg se trouve juste à la frontière française. Donc il pense que s'il y a une guerre, il peut y avoir une invasion des troupes françaises, etc. Enfin, en tout cas, des bombardements. Et donc il faut agir vite. Et elle-même n'est pas l'héritière légale, c'est le fils qui est aux États-Unis. Mais en fait, elle obtient le fait. Et donc elle donne à ce jeune garçon qu'elle ne connaît pas 15 jours, 3 semaines avant. Elle lui donne légalement le droit
de disposer
des œuvres, etc. Enfin, donc elle lui fait une entière confiance.
C'est ça.
Et d'ailleurs, bon, il lui rendra bien parce qu'il va la sauver.
Bien sûr.
Et donc, alors, c'est une petite bonne femme comme ça qui, au début, ils vivent dans une maison un peu isolée. Donc c'est très dur parce que Van Breda raconte, c'est vrai, qu'il a mis presque 10 jours à obtenir l'adresse et à entrer en contact avec elle, tellement que on peut dire l'administration nazie isolait comme ça les gens, et il a réussi. Puis ensuite, je décris un peu cette maison. Et puis
tout à fait.
Les gens.
Et alors, j'aime beaucoup justement tu places dans la bouche de Madame Husserl des tirades assez incroyables. Je dois dire d'ailleurs que dans ton roman, s'il y avait un lieu presque bernardien, Thomas Bernardien, je trouve que les tirades de Malvin Husserl ont quelque chose d'une espèce de véhémence.
Oui, parce qu'à un moment donné, lors de la première rencontre, donc elle explique un peu sa situation au père Van Breda, cette situation d'isolement, de pénurie, et elle lui montre une maison en face où les gens ont disparu, et elle commence à décrire en fait le régime nazi comme une farce macabre, quoi, comme une sorte de grand carnaval d'ombre, etc. Et effectivement, elle a un côté qui est un peu mon style, parce que ce que j'avais écrit un peu avant était toujours un peu comme ça, un peu dans la provocation. Et elle a une sorte de personnage un peu excessif. Et c'était drôle de cette petite bonne femme, etc. On s'attendrait plutôt à quelqu'un, voilà, un peu de timoré, de timide.
Sur la réserve.
Sur la réserve, vu l'époque. Et au contraire, oui, elle a une sorte de vigueur. Et elle lui fait une description. Elle dit, voilà, c'est une sorte de cauchemar depuis 1933, une sorte de parade délirante, quoi. Il parade dans les rues, comme une sorte de cirque. Pas drôle, quoi, de cirque qui va nous amener à la catastrophe. Quoi.
Alors, je peux peut-être suggérer qu'il y a peut-être une parenthèse à faire ici, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais le sort que le régime avait quand même réservé à Husserl, il est important de rappeler que Husserl avait été frappé quand même dès 35 par les lois de Nuremberg. Enfin, ça commence même avant.
Interdit d'aller en bibliothèque, d'avoir des assistants, de se rendre à l'étranger, s'il va réussir une fois.
Une fois,
etc. Et donc, bien évidemment, il y avait tout un... Et alors, Malvin Husserl raconte à un moment donné que quand elle reçoit le père Van Breda, il y a une nouvelle loi, donc tous les juifs doivent s'appeler nécessairement Rachel ou... Donc elle doit s'appeler Malvina, Rachel, Husserl, etc. Donc il y a même des choses absolument absurdes comme ça. Ou Sarah, oui. Donc c'était... C'est...
Voilà.
Le contexte est assez lourd. Oui.
Alors voilà, ça c'était les personnages, j'allais dire, grâce à qui ou avec qui, ceux sans qui rien n'aurait pu être fait. Il y a aussi cette fameuse sœur dont tu parlais, sœur Adelgundis Jägerschmidt, qui est aussi celle qui a recueilli peut-être le témoignage le plus fidèle des derniers moments de Husserl, puisqu'elle a veillé Husserl à son chevet, sur son lit de mort, pendant plusieurs semaines.
Oui, elle a raconté d'ailleurs dans un texte des années 70, ses derniers instants,
publié,
elle lui faisait des lectures, etc. Donc c'est une sorte de confidente, de fin de vie, on pourrait dire.
Et le contenu des discussions, le contenu des lectures, etc. est détaillé par elle dans un très beau texte qui a été édité en anglais il n'y a pas si longtemps.
Oui. D'ailleurs, le roman commence, en fait, avant l'histoire, il y a une sorte de prologue
tout à fait.
Qui commence avec la mort de Husserl. parce qu'elle est assez célèbre, parce qu'il aurait dit à la fin de sa vie, j'ai vu quelque chose de merveilleux, non, non, je ne peux pas le dire, etc. Ouais. Maintenant, je dois tout recommencer à zéro. Alors, on s'est dit, bon, déjà qu'il a beaucoup écrit, sinon, c'était déjà, pour nous chercheurs, il y avait déjà quand même sacrément...
C'est vrai qu'il y a ce récit fondateur mythique de la mort de Husserl, avec ses derniers mots, qui est très important.
Ou que Van Breda veut savoir, parce que Fink lui laisse entendre qu'il aurait dit quelque chose, donc pendant le roman, il l'interroge 2-3 fois, notamment en promenade, il voudrait savoir ce que Husserl a dit à la fin de sa vie, mais on ne le saura pas dans le roman.
Alors, je voudrais évoquer les personnages, peut-être encore d'autres personnages, des figures importantes, ceux que j'appelais tout à l'heure, ceux malgré lesquels, finalement, ça a eu lieu. Alors, il me semble qu'il y a la figure de l'ennemi intérieur et puis de l'ennemi extérieur. L'ennemi intérieur, tu en parles qu'à 2 reprises, si je peux l'appeler comme ça, c'est un membre du couvent, enfin, c'est un frère qui s'appelle Felke.
Oui, Felke.
Et d'après mes souvenirs, dans un chapitre, la première rencontre, même si la communication est difficile, Van Breda comprend que Felke lui dit 2 choses en réalité. D'abord, il paraîtrait que la phénoménologie serait une forme contemporaine du gnosticisme, un des ennemis de toujours du christianisme. Et deuxièmement, il le préviendrait à demi-mot qu'il y a quelque chose de dangereux, voire d'inconvenant, à aider au vu et au su, comme ça, de tout le monde, une famille juive comme la famille Husserl. Voilà. Et donc là, on a une espèce de menace, si je puis dire, à l'intérieur même du couvent.
Oui, d'ailleurs, bon, le roman parle... au fond, de l'attitude contrastée des catholiques par rapport au régime. Et bien évidemment, Van Breda, lui, un catholique qui s'engage à sauver les manuscrits d'un philosophe juif, mais tout le monde ne voit pas ça forcément d'un bon œil, notamment la hiérarchie. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'au fond, le petit peuple catholique est plutôt philosémite. Mmh. La hiérarchie, les évêques, notamment l'évêque de Fribourg, Gruber, est carrément un collaborateur zélé. Et ça, c'est vrai. En 1937, il visite Dachau. À Dachau, à l'époque, il y a essentiellement des communistes et des catholiques, des sœurs, des prêtres, etc., qui vivent quand même... Alors, ce n'est pas un camp d'extermination, mais c'est pas des conditions. Et les sœurs, etc., les frères lui demandent de l'aider. Et la seule chose qu'il dit aux journalistes, quand il interviewe, c'est de dire « Tout cela est bien organisé. » Et Gruber était très... était... pour le régime. D'ailleurs, il va être tellement remercié que son archevêché va être brûlé par les nazis, etc., en remerciement. Et donc, il y a une sorte d'ambiguïté de la hiérarchie catholique qui, sans doute pour des raisons historiques d'anti-bolchevisme, bon, Hitler plutôt que Staline, donc au fond, même si on va se plaindre auprès de Pie IX, etc., que ceci, bon, il y a une forme... Et je montre qu'il y a des catholiques qui l'aident, sœur Adèle Gundis, lui, etc. Et puis Felk, c'est au fond un catholique qui, au fond, au nom des hiérarchies, et à un moment donné, il va voir Gruber, et on pense qu'il va lâcher le morceau, quoi. Enfin, il dit que, voilà, dans son couvent, il y a un jeune père franciscain qui est en train de faire ceci, faire cela. Et donc, oui, Felk...
Voilà, c'est un personnage un peu trouble, d'ailleurs, qui reste souvent dans l'obscurité.
Oui, il y a une scène où, justement, Van Breda, à un moment donné, parce qu'il n'arrive plus à trouver de solution, va voir le directeur de son couvent pour lui demander de cacher les manuscrits dans le couvent. Et Felk est dans l'ombre, comme ça, on ne le voit pas. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il est là. Et le directeur du couvent lui dit, non, absolument pas, ça fait prendre trop de risques, etc. Voilà. Donc oui, c'est une sorte de figure un peu du traître, quoi.
C'est ça. Comme ça un peu, oui, tout à fait. C'est à peu près ce que j'avais en tête en parlant tout à l'heure, et puis il y a quand même ce...
Mais d'ailleurs, quand je parle de lui, à un moment donné, bon, c'est parce que le texte oscille aussi entre un niveau de langue très soutenu, parfois poétique, et parfois un niveau de langue très relâché, très trivial, familier, parce que je voulais justement qu'il y ait ce chaos même stylistiquement, et quand je parle de Felke ou de Gruber, j'emploie rarement des formules châtiées.
Poétiques. et alors il y a aussi l'autre figure, la figure importante, c'est ce fameux Lehmann, qui est donc l'ennemi extérieur, celui-ci, parce qu'alors c'est pas de l'intérieur même du couvent, lui il représente en quelque sorte les moyens que le régime nazi met en œuvre sous la forme d'une section particulière de la Gestapo pour s'occuper des problèmes liés aux congrégations et au christianisme, aux catholiques. Et alors, c'est un personnage à qui tu accordes une grande importance. Alors, il apparaît tardivement dans le roman. Il faut attendre un certain... On fait connaissance avec lui au chapitre 14. Oui. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on tarde à nous le présenter, Et j'allais dire, on le rencontre de plus en plus, d'une certaine manière. Oui, on le rencontre de plus en plus, oui. Et à la fin, il y a cette espèce, on en reparlera peut-être, de grand crescendo, où tout d'un coup, Van Breda et,
oui, vont se croiser,
et Lehmann vont forcément, à un moment ou un autre, se croiser, alors qu'au départ, ils provenaient, si je puis dire, pour toutes sortes de raisons, des antipodes. Enfin, et alors, ce Lehmann, tu lui donnes une biographie quasi symptomatique. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu son expérience du feu lors de la Première Guerre mondiale.
Soldat, il est revenu brisé intérieurement, voilà. Pas physiquement sans doute aussi, mais brisé intérieurement, et il est incapable de reprendre une activité normale. C'est un ouvrier de la région de Rostock, etc. Et il est foutu à la porte, commence à voler, à avoir des mauvaises fréquentations, il est foutu à la porte par son père, et il devient en fait clochard en fait. Mmh. Et en 20, 21, 22, il est à Berlin, Munich, etc. Et puis en fait, il est recueilli par les premiers nazis à Munich, qui lui donnent un peu à manger, et puis il est recruté comme ça. Enfin, il vient de la rue. Et je voulais qu'il y ait cet aspect-là parce que j'ai lu ces dernières années, surtout en France, beaucoup de romans, de récits sur la période de l'Allemagne nazie, par des romanciers français comme Les Bienveillantes ou d'autres. Et très souvent, la figure qui est mise en avant, alors, en lien sans doute avec des travaux d'historiens, c'est toujours une sorte de... voit le nazi comme une sorte d'ingénieur rationaliste, technicien, comme ça un peu la figure. Et moi, ce que je savais, ce que j'avais appris à l'école et ensuite après, parce que je me suis quand même beaucoup intéressé, même en dehors de... C'est que beaucoup, quand même, étaient des petites frappes, des petits voyous qui venaient de la rue. Et qu'au départ, le parti, le NSDAP, bon, c'est des types qui aiment bien foutre, casser la gueule à des communistes ou des anarchistes dans la rue. C'est pas des ingénieurs, techniciens de la structure rationnelle. Et je voulais que mon titre de la Gestapo, il ait cette extraction un peu comme ça, de la rue, un peu violente, un peu... Lui, ce qu'il aime bien, d'ailleurs, il le dit, c'est aller au bordel, tabasser, etc. Et pas cette figure, à chaque fois, un peu à... quelqu'un qui écouterait Bach, qui lirait Goethe, qui serait cultivé, puis un pur technicien un peu froid. Alors, sans doute, ça existait, bien évidemment. On ne peut pas diriger un pays. Et sans doute, le totalitarisme a été une sorte de combinaison entre la sauvagerie mythologique et l'hyper-rationalité, mais moi j'en ai fait plutôt quelqu'un de vulgaire, quoi, qui essaie de lire Husserl parce qu'il commence à enquêter sur Van Breda, il comprend rien, bien évidemment, qui est un type, une sorte de petit voyou,
et qui a quand même une fixation presque paranoïaque anti-chrétienne ou anti-catholique qui est importante. C'était une des dimensions aussi.
Oui, parce que quand il est à la rue, en fait, l'une des seules formes d'aide qu'il a, c'est l'aide catholique, des structures de charité, Caritas notamment en Allemagne, etc., qui aidaient. Et bien évidemment, il ne supporte pas cette charité parce qu'il faut se coucher à 7 heures, il y a la soupe, ensuite il faut écouter la messe avant de pouvoir aller se coucher, etc. Et ce que beaucoup ont décrit, et donc déjà avant même qu'il devienne nazi, nourrit une sorte de haine contre les catholiques, parce que ce sont ceux qui l'ont à la fois aidé, et en même temps ses bonnes sœurs qui leur disaient que s'ils voulaient manger, il fallait qu'ils se confessent, qu'il n'a pas supporté ça, et donc... au départ, lui, d'ailleurs, il n'est pas antisémite. Et d'ailleurs, je dis qu'à un moment donné, il aurait pu basculer du côté des anarchistes ou des communistes.
Oui,
et puis, il bascule du côté des nazis. Mais bon, c'est un peu le hasard parce que tout d'un coup, quelqu'un lui a donné un tract, lui a donné un sandwich ou je ne sais pas qu'il a été un peu recruté comme ça, quoi. Donc, c'est quelqu'un un peu... Voilà, c'est marécage, quoi, Lehmann, quoi.
C'est
un peu...
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, il y a une scène dans son bain, comme ça.
Oui, une scène assez comique, effectivement, dans son bain, où il pense au dossier Van Breda ou ça.
Oui, oui, oui.
Bon, et alors, justement, ça fait une espèce de contrepoint, justement, comme tu dis, un contrepoint vulgaire et un peu chaotique par rapport à cette ligne claire dont tu parlais tout à l'heure de Van Breda. Et ce qui est vraiment intéressant dans la deuxième partie du roman, c'est cette espèce de la façon dont tu orchestres les événements, de telle sorte que, bon, bah... Van Breda continue son trajet sans trop se soucier de ce qu'il y a autour, alors que Lehmann est chargé de le surveiller.
Oui.
Et il y a ce moment où les deux se rapprochent jusqu'à une espèce de rencontre qui aura ou qui n'aura pas lieu, donc peut-être on va reparler dans un petit instant.
Oui.
J'aimerais juste avant évoquer peut-être une dernière création de personnages qui ne sont pas vraiment ceux sans qui rien n'aurait pu être fait, ni même ceux malgré lesquels, mais c'est simplement un élément du décor dont tu as déjà parlé un peu.
Oui, oui.
c'est ces fameux frères, les frères Prince.
Oui, oui.
Et notamment, tu renouvelles la figure de celui des deux frères qui est handicapé, mais plus clairvoyant. Hein, c'est, et on sait très bien, depuis, dans la littérature occidentale, depuis au moins les tragiques grecs et depuis Tirésias, que... Moins.
Oui, c'est l'infirme.
C'est l'infirme qui.
C'est l'infirme plus... qui sait, qui sent.
Sait, voilà.
Donc, il dirige un kiosque de journaux et de cigarettes, parce que Van Breda fume beaucoup. D'ailleurs, ça va avoir un certain rôle, parce que l'épilogue, c'est grâce à une cigarette que l'histoire s'éclaire un peu.
C'est ça.
Donc, il fume beaucoup, donc il va tout le temps à ce kiosque acheter des cigarettes. Et là, il s'aperçoit qu'ils sont deux frères, notamment un qui est infirme, qui a des moignons comme ça, et qui arrive à attraper les paquets et tout. Et lui, il dit clairement ce qu'il pense des lois du régime et tout. Et ce franc-parler étonne un peu Van Breda, parce que Van Breda, d'ailleurs, à un moment donné, dit que lui n'a pas vraiment d'opinion, lui demande ce qu'il pense un peu, par exemple, de la crise des Sudètes, etc. Il n'ose pas trop se prononcer. Mais Prince, lui-même, même sur les terrasses des tavernes, parce que c'est encore le mois de septembre, il dit clairement aux gens que ce sont des imbéciles, que tout ça va les mener à la destruction totale, qu'ils vont tous mourir, etc. Et il peut se le permettre parce qu'il sait que il a l'intuition qu'au fond, il va être tué aussi par le régime, enfin par les lois, vous savez, contre le handicap, etc. Donc c'est une sorte de sous-homme qui est au fond plus courageux que les autres, etc. Parce que quand on voit deux SS, c'est juste la scène après ou avant, eux, ils sont en train de faire du pédalo qui ressemble à un cygne comme ça sur un lac, dans un parc. Donc ils sont ridiculisés. Comme une sorte, ils s'amusent comme des gamins sur un cygne pédalo, alors que le prince, lui, le prince, quoi, une sorte de comme ça, de prince, on peut dire moral, quoi.
Il a sa grandeur, c'est ça.
Il a une sorte de grandeur et il voit clair dans ce marécage, quoi.
Très bien.
Et c'est un personnage. Et avant que Van Breda parte à Constance, il lui fait ses adieux et on sent qu'il y a quand même une sorte d'amitié qui aurait pu naître. Quoi,
tout à fait. D'ailleurs, le moment où il fait ses adieux est un moment important aussi, où Van Breda prend le temps de savourer une discussion avec eux, et avant à la fin de dire, bah, écoutez, les gars, je m'en vais. Quoi, peut-être qu'on se reverra plus.
Oui, parce que peut-être que Van Breda lui-même va trouver la mort, enfin, parce que c'est là, il décide vraiment de... Parce qu'il avait déjà essayé à Francfort, il avait été voir le consulat de Belgique...
En tout cas, voilà pour ces figures. Alors, il y en a une que j'aimerais mentionner quand même aussi, parce que, bon, Van Breda est un moine franciscain, et le roman fait une place à Saint-François.
Oui.
Alors, c'est surprenant, j'avoue que la première fois, parce qu'il se passe 8 chapitres dans lesquels on est on est à Fribourg, septembre 38, et tout d'un coup, un chapitre sans crier gare nous relate, alors de façon, pour le coup... Le récit, là, est plus, comment dire, plus...
Ah, il est beaucoup moins,
plus factuel,
stylistiquement, il est plus dans le récit.
Il est plus dans le récit, plus
détaché. Il y a moins d'effets, il y a moins de...
Et on nous raconte, effectivement, un miracle le miracle de la guérison de fils de marchand par Saint-François.
Qui, pour le coup, est inventé, celui-ci.
D'accord.
Parce qu'il y en a d'autres qui sont...
Il y en a d'autres qui sont
attestés. Le loup de Gubbio, ça, c'est etc. La rencontre avec le pape... Bon,
alors, je me suis demandé, moi, si le miracle...
Mais avec le miracle du jeune marchand, ça, c'est faux.
Donc, Saint-François arrive. En revanche, justement, ça se reproduit quelques chapitres plus loin. Le fameux miracle du loup, qui, pour le coup, est connu. Au chapitre 16, on retrouve Saint-François au chapitre 26 lors du revirement du pape Innocent III à l'égard de la communauté franciscaine.
Oui, il aurait pu les envoyer au bûcher, parce que bon,
exact.
C'est comme il a fait avec les cathares. Puis là, tout d'un coup, les franciscains, bon, ils acceptent alors de manière un peu incompréhensible, parce que bon...
Et une dernière rencontre est ménagée, Saint-François, lors de la tentative, tu mentionnes les tentatives de conversion
du sultan
auquel se livre Saint-François en marge de la cinquième croisade. Oui. Alors du coup, c'est intriguant parce que le récit est ponctué quand même par ces quatre interventions, pardon, et on se demande s'il faut y voir une scansion particulière du récit. Je me suis demandé si le miracle, si le revirement du pape Innocent III n'était pas quelque part une métaphore de... Comment dire, les choses sont bloquées, Van Breda avance, tout semble sans espoir, et puis d'un coup, de façon quasi miraculeuse, il y a quelque chose de quasi miraculeux dans l'histoire.
Alors, effectivement, pourquoi j'ai introduit ces chapitres sur la vie de Saint-François? Bon, déjà, j'adore Saint-François.
Bon, c'est une raison suffisante.
Je ne suis pas croyant, mais si j'étais croyant, je pense que je serais franciscain, parce que c'est une figure, je pense, exceptionnelle de l'histoire occidentale, et qui va au-delà même... du catholicisme. Bon, Et bon, moi, j'ai été dans une école catholique, mais c'était plutôt des frères lassalliens. Donc, mais donc, à l'époque, je connaissais la figure de Saint-François, mais je n'étais pas vraiment intéressé. Puis c'est après que je l'ai découverte, en allant en Italie, en Ombrie, Assise et tout. Ouais. Et, c'est toujours... et là, j'avais un franciscain, donc je me dis, c'est bon,
c'est bien.
Trop de chance, je vais pouvoir un peu parler de Saint-François. Et puis en plus, comme je l'ai dit, non, mais après, il y a une raison beaucoup plus sérieuse, c'est qu'il n'y a pas de psychologie de Manfreda, donc on ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Parce que je l'ai dit, c'est une sorte de personnage comme ça, un peu monolithique, etc. Et au fond, avec un parallélisme avec la propre démarche de Saint-François, on comprend mieux son obstination. C'est-à-dire, de même que Saint-François, tout d'un coup, crée cet ordre, cette nouvelle règle, ce vœu de pauvreté, etc., retrouver l'enseignement originel des évangiles contre, au fond, la pratique chrétienne telle qu'elle était. Et au fond, ça explique voilà, la même obstination, la même simplicité, la même linéarité que Van Breda. Donc ça me permettait peut-être comme une sorte de... comme si Van Breda refaisait...
Oui.
À son échelle moindre et plus modeste, au fond, ce que François avait fait avec la même audace, la même simplicité et la même intégrité. Quoi.
Voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait.
Donc c'était, ça éclairait.
Il y a un éclairage réciproque, les deux d'une certaine manière.
Alors après, comme vous savez, il y a beaucoup de textes sur Saint François, bon, Thomas de Celano, les Fioretti, il y a beaucoup. Et moi, j'ai choisi quelques épisodes, et j'en ai inventé un, là, sur cet enfant malade bon, qui est sauvé.
Mais qui n'est pas improbable en lui-même, je veux dire.
Que non, quand
on voit le miracle du loup.
À force d'avoir lu des récits sur Saint-François, j'ai essayé de trouver un style un peu médiéval, avec des vieux mots comme ça.
Oui, puis les miracles deviennent probables à la fin. On ne voit pas pourquoi celui-là n'aurait pas lieu.
Et puis même, il y avait une sorte. Comme le style est quand même un peu baroque, assez. Là, il y a une sorte comme ça de simplicité dans les chapitres de Saint-François.
Tout à fait.
Pour montrer, au fond, que le choix du style baroque était délibéré. Ce n'était pas simplement que si j'avais voulu faire un récit très sobre, j'aurais pu le faire à la preuve.
Ça ménage des poses un peu stylistiques.
Ouais. Mais c'était aussi une nécessité interne pour expliquer comme une sorte de presque psychanalytiquement. Tu sais, bon, souvent, on dit que les enfants, les petits-enfants refont l'histoire des parents. Mais là, c'est d'une certaine manière, Van Breda refait une sorte de rite d'initiation, revient aux origines même de son ordre et il refait un peu toute proportion gardée ce que Saint-François a fait.
D'accord. Donc ça m'amène, il reste un tout petit peu de temps, je pense, avant peut-être qu'on prenne des questions. Je voulais, du coup, par le biais de ces chapitres sur Saint-François, en venir sur les éléments structuraux du récit. Quand même, on a 38 chapitres précédés d'un prologue, la mort de Husserl, et suivi donc d'un épilogue où Van Breda, à 62 ans,
dans les années 70,
fait une double expérience à l'occasion d'une promenade, une triple expérience, j'en sais rien, à l'occasion d'une promenade sur la plage. L'expérience intéressante pour le récit, c'est celle d'un souvenir involontaire, quasi proustien, où en retombant comme ça sur un paquet de cigarettes.
Allemande
ancienne sur la plage, à la vue de cet objet, en un sens, c'est tout comme de même que toute l'enfance était dans la tasse de thé, dans la madeleine, tout ce qui vient de nous être raconté, cet automne, fin d'été, début d'automne 38, fin d'été 38, revient en quelque sorte, et on a une espèce de condensé de tout cet événement, de tout ce... cet ensemble de décisions un peu folles qui ont rythmé le mois de septembre qui revient à sa...
Oui, parce que d'une certaine manière, comme dans son récit, il ne dit pas grand-chose, comme s'il avait lui-même refoulé cette histoire.
Voilà.
Il y a une sorte de retour du refoulé dans les années 70. D'ailleurs, période un peu hippie, tout ça, un peu psychédélique, parce que je parle de Reich, Kerouac.
Tout à fait.
Il a le souvenir d'avoir rencontré deux jeunes femmes nues, un peu de communauté hippie sur cette plage, etc. Donc, et le souvenir de l'été 38, en fait, revient, et même, peut-être, le souvenir involontaire de la rencontre qui n'a pas eu lieu avec...
Voilà, alors ça, c'est magnifique, parce que...
Avec Lehmann.
Avec Lehmann, justement, c'est intéressant, parce que, bon, là, ça nous permet de parler vraiment de la structure. Il y a des trajets convergents, disais-je tout à l'heure, depuis les antipodes jusqu'à la rencontre finale. Van Breda va à sa mission, Lehmann obéit à sa fonction, il surveille
l'Ecclésiastique et arrive le moment où l'arrestation doit avoir lieu. Ça se passe à Berlin. Et effectivement, alors bon, il faut, c'est pas un point clé, mais elle n'a pas lieu.
Pour une raison dérisoire.
Elle n'a pas lieu parce que Lehmann traîne un chien, un vieux chien, qui en fait décide de mourir au moment où, où il s'agissait en fait d'interpeller Van Breda. Et du coup, il est en quelque sorte retenu.
En fait, le chien qu'il avait recueilli lorsqu'il était dans la rue.
Voilà.
Et donc, c'était...
Son compagnon de cloche.
La seule humanité qu'il a, il a dans son rapport à ce chien. Et lorsque, comme c'est... ce chien, il le trimballe un peu partout pour suivre Van Breda, il fait très chaud, etc. Ce chien, visiblement, est très vieux. Et le jour même où il doit intervenir dans la rue, le chien montre des signes d'agonie. Et là, Lehmann s'effondre, on pourrait dire, psychologiquement. Et donc, il ne peut pas intervenir.
Et Van Breda, si je puis dire, le croise à ce moment-là, évidemment ignorant de tout ce que Lehmann était censé opérer sur lui, l'arrestation dont il devait être l'agent. Et alors, effectivement, sur cette plage, 35 ans après, parmi les souvenirs qui reviennent en pagaille, il y a le souvenir de ce chien, Van Breda. On entend Van Breda se souvenir de ce chien. Et il y a quand même une phrase empathique, peut-être quand même, pour... des convulsions du chien dans la rue, une bave blanche, etc. Des spasmes sous les poils, le hoquet de la mort prochaine, la consternation de son maître. Oui. Et donc, Van Breda a quand même un souvenir, son souvenir, un mouvement quand même d'attention à celui qui en fait était l'homme qui devait l'arrêter.
C'était doublement ironique. Oui. Et qu'au fond, il est une sorte de compassion passagère. Il se rappelle ce visage attristé qui aurait été le visage de son bourreau. Qui n'a pas été son bourreau. Donc, c'était une sorte de tableau un peu comme ça.
Donc il me semble qu'il y a
toujours que l'histoire, au fond, l'histoire est des rencontres improbables, c'est une sorte de clinamen, quoi. Ça dévie tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi.
Et là, ça se croise, ça se frôle, tout à fait. Alors il y a cette logique-là. Moi, j'avais noté aussi quelque chose d'assez intéressant qui va peut-être nous mener au dernier aspect. Il m'avait semblé, mais c'est peut-être un détail, qu'il n'y avait pas non plus la même scansion du temps dans les... dans les deux moitiés, l'ouvrage, il n'y a pas de moitié, il n'y a pas de partie, mais globalement, dans les deux grandes moitiés de l'ouvrage, on a un temps qui me semble un peu suspendu, avec une certaine immobilité au début à Freiburg, quand Van Breda est là, puis qu'il attend que les choses se fassent.
Il attend la réponse de Louvain, tout ça, donc en fait, il erre un peu dans Fribourg.
Voilà. Et en fait, les choses changent à partir du moment où la solution diplomatique commence à se construire.
Oui, oui.
Alors là, tout d'un coup, on quitte Fribourg, c'est Constance, c'est
Francfort,
Constance, Berlin. Et là, la narration devient, par nécessité, se met à raconter des éléments d'action. Et donc, on a vraiment, me semble-t-il, un passage d'un temps un peu suspendu à un moment plus actif dans le roman.
Et Lehmann lui-même, d'ailleurs, au départ, il est plutôt actif. Ensuite... Il oublie un peu cette histoire. Et puis à la fin,
il
se précipite de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de parallèles. Parce que Van Breda recueille un chat malade, il y a le chien malade, donc il y a plein de... Lehmann va avoir une carte mentielle, etc. Enfin, il y a plein d'aspects un peu ésotériques, un peu cachés.
C'est ça.
Et de correspondance un peu cachée entre les uns et les autres.
On voit bien, effectivement. Et alors, il y a une dernière logique, me semble-t-il, dans l'ouvrage dont tu as parlé tout à l'heure aussi, tu en as dit un mot. Il y a une évolution quand même assez symbolique du climat atmosphérique. Effectivement, il y a une chaleur caniculaire attestée en septembre 38 dans ces coins-là de l'Allemagne, que tu fais évoluer à l'orage. Parce que là, c'est toi qui...
Oui, à Berlin, oui.
Tu fais évoluer jusqu'à l'orage à Berlin. Symboliquement, l'orage crève enfin ou éclate moment où la réunion à l'ambassade débouche sur une solution institutionnelle et politique pour le sauvetage des archives. Et le lendemain, donc, le transfert a lieu en plein soleil, mais d'un soleil qu'on imagine moins accablant et plus dans une atmosphère plus respirable. Donc tu ménages aussi en quelque sorte une espèce de...
Oui, c'est vrai, l'orage final, c'était pour toute la tension accumulée qui explose enfin. Et c'est vrai que depuis le début, dès qu'il arrive à Fribourg, je décris cette chaleur un peu accablante dans ce val du Rhin, tout ça. Et ils vont... D'ailleurs, Fink lui propose de faire une promenade sur les hauteurs pour sortir un peu
de cette chape quoi, ouais. Sur Fribourg. Donc, et oui, l'élément de la chaleur était important pour accentuer aussi cette pression, ce désagrément quoi, physique. Quoi,
Exact. Ouais. Et c'est le dernier point sur lequel moi je voulais éventuellement te solliciter. C'était, alors je sais que c'est un concept qui te tient à cœur et sur lequel tu as travaillé pour le coup d'un point de vue philosophique assez récemment. Mais on sent bien à travers, et le jeu de mots est facile, à travers cette importance du climat qui accompagne la narration, le climat c'est aussi quand même lié à l'atmosphère ou à l'ambiance générale. Et il m'a semblé, alors aux ambiances aussi bien extérieures, ce qui se passe dans les grandes villes allemandes qu'on est amené à découvrir par les yeux de tes personnages, mais aussi les ambiances intérieures. Il me semble qu'à un moment tu utilises à propos de Fink l'expression ambiance intérieure. Alors tu dis qu'il ne fait pas de psychologie, mais d'un autre côté, il y a quand même cette idée qu'il peut y avoir une ambiance intérieure. Tu donnes une place très importante aux éléments atmosphériques, au sens où tu y vois, tu appelles atmosphère ou ambiance quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre, si je puis dire, du décor ou de la toile de fond, mais quelque chose qui a à voir avec le rapport concret et même presque corporel que j'ai au monde.
Oui, d'imprégnation.
D'imprégnation, exactement, du monde dans ma vie ou de moi, comment je m'inscris dans le monde.
Et la musique aussi, par exemple.
Tu évoques Berg et...
Oui, Deborah. Par exemple, quand le doyen de l'Université de Louvain, là j'évoque... Ravel, je crois.
Debussy,
pardon. Lehmann, lui, c'est plutôt Strauss, etc. Voilà. Donc, alors, chacun un peu sa tonalité musicale.
Il y a une attention sur les ambiances et le tout, me semble-t-il, pour construire. Alors, il m'a même semblé, à vrai dire, parfois que le véritable objet du livre était là. C'est-à-dire qu'on comprend bien aussi la figure de Van Breda quand on voit dans quelle, et tu l'as déjà dit tout à l'heure, dans quelle ambiance ou dans quelle atmosphère, en quelque sorte, il trace sa ligne. Tu parles à un moment d'une ambiance pré-cataclysmique, de tension et de terreur, de paranoïa, avec effectivement des moments d'angoisse, des moments de prémonition, et des moments de stupeur. Alors il y a deux moments de stupeur quand même, ou de Van Breda, c'est cette espèce d'expérience limite qui fait à la frontière suisse à Constance, et puis il y a cette espèce de paralysie ou d'absence à Berlin, devant un magasin de lingerie.
Ça c'est
il ne se rend pas compte qu'il est là, et il s'arrête juste devant. Bon, alors, c'est comique, mais d'un autre côté, il y a cette espèce de moment où on sent que ce qui est en jeu, c'est la question profonde que pose l'ambiance, c'est-à-dire, qu'en est-il de mon rapport familier ou non familier avec le monde? Qu'en est-il de ma manière d'habiter ou de m'y retrouver ou de ne pas m'y retrouver dans le monde? Qu'en est-il de l'imprégnation réciproque entre le monde et moi? Et qu'est-ce que c'est que se sentir étranger ou là ou absent alors qu'on est là, etc.
Oui, parce qu'à Berlin, bon, c'est là où il commence un peu à croire que les choses vont mal tourner, parce qu'il n'y arrive pas. Donc le lendemain, il a ce rendez-vous à l'ambassade et il est assez pessimiste pour différentes raisons. Et il erre dans Berlin, parce que depuis presque 15 jours qu'il court à travers l'Allemagne pour sauver ses manuscrits. Et il marche comme ça un peu, et c'est la période que je vais indiquer, donc il y a des défilés militaires, etc. Et à un moment donné, il est dans un état second, et il s'arrête comme ça dans la rue, un peu hébété, et en fait, il ne se rend pas compte qu'il s'est arrêté devant un magasin de sous-vêtements féminins. Et donc, il y a une dame un peu bourgeoise qui dit « Mais mon père, c'est honteux !» Parce qu'elle croit qu'il est en train de regarder, en fait, cette boutique-là. Alors, en fait, il est tellement perdu, il ne voit rien, il est comme ça. Et donc, ça le fait sourire. Et en fait, c'est un déclic, parce que là, il décide d'appeler l'ambassade et il accélère les choses. Et tout. Donc, il y a des moments comme ça où, à la fin, il est toujours dans l'action, mais à la fin, quand même, il y a deux, trois moments de flottement. Constance, ça commence où là, il a peur d'être arrêté, parce qu'il y a un garde qui lui demande... Il est en train de se promener sur la frontière pour voir comment on pourrait faire passer les manuscrits. Et puis, il y a un garde qui l'interpelle. Et là, au lieu simplement de... Bon, il s'enfuit. Et à Berlin aussi, il est dans un état un peu...
Alors, on voit comment l'ambiance que tu construis, en quelque sorte, finit par imprégner le personnage, ou disons, par s'infiltrer dans lui. Et ça crée des moments d'incertitude. Et ça me paraît un point important. Alors, bon, il est 21h. Moi, j'aurais peut-être encore deux questions résiduelles, mais on peut aussi... je les évoque simplement. Le rôle des animaux, puisqu'après tout, Van Breda recueille un chat dont il s'occupe avec beaucoup de...
Saint-Franciscain.
Voilà, bien entendu. Il y a l'histoire d'animaux. Il y a le loup de Saint-François, il y a le chat de Van Breda, il y a le chien mourant de Lehmann. Et puis à la fin, sur la plage même, j'ai vu ça tout à l'heure, Vendredas se balade et puis il voit un troupeau de moutons. Oui, il y a cette remarque moutons. Selon laquelle les animaux sont toujours un peu inquiétants quand même.
Oui, parce que même si les franciscains, quand même, ils se méfient un peu des animaux. D'ailleurs, le chat, bon, au début, il ne veut pas tellement le recueillir.
Même quand, il est, même quand l'animal est domestiqué, en fait, il reste cette part d'inquiétante étrangeté. Ouais. Et puis, on aurait pu aussi évoquer celui qu'on croise, sous le nom l'ancien recteur, la présence de Heidegger, qui, à deux ou trois reprises, l'ancien recteur, jamais nommé par son nom, dont un chapitre quand même prend, auquel un chapitre consacre 3-4 pages, et surtout à l'attachement duquel, à l'attachement avec le régime, duquel le chapitre consacre plusieurs pages. Tu as plusieurs pages dans lesquelles Van Breda fait, en se parlant à lui-même, fait état des rumeurs ou des faits qui lient d'une manière indubitable Heidegger à au régime. Ce sont des questions
que
ouvertes.
Van Breda est en train de sauver les manuscrits d'un philosophe juif, etc. Et bien évidemment, il faut savoir que Fink, à l'époque, et pas même avant, Fink était assistant d'Husserl, mais il avait des relations aussi très privilégiées avec Heidegger. C'est même parfois, la même journée, il voyait Husserl et Heidegger, alors que les deux étaient fâchés. Et là, Fink essaie de dire que non, finalement, l'engagement de Heidegger n'est pas si profond et tout avec le régime. Et Van Breda, bon, a une toute autre opinion.
C'est ça.
Et donc, oui, c'est
évoqué. Bon, mais tu l'évoques en passant, tu ne rentres pas dans les...
Non.
Il ne s'agit pas de prendre...
Mais c'est vrai qu'il dit que par rapport à l'attitude digne de Husserl, sa sobriété, etc., celle de Heidegger contraste fortement.
Voilà, et ça te permet quand même de revenir sur quelque chose qu'on connaît peut-être assez mal, c'est-à-dire les formes sous lesquelles... Alors, par contraste, si on veut, avec Heidegger, les formes sous lesquelles Husserl a quand même fait acte de résistance. Il y a ces fameuses conférences, la fameuse conférence de Vienne en 1935, dans laquelle il prononce quelques phrases qui sont restées fortes et qui étaient en quelque sorte la forme d'opposition qui lui était encore possible. Et il y a un moment, effectivement, où tu mets sous le concept de décence, d'ailleurs, Tu opposes un peu la figure de Husserl et puis cet ancien recteur de l'université qu'on croise avec Van Breda au détour d'un couloir. Et qui, voilà.
Oui, c'était un clin d'œil appuyé.
Voilà. Donc, bon, peut-être, on a évoqué un certain nombre de points. Je ne sais pas si tout a été... a été dit. Peut-être il y a des questions factuelles ou ponctuelles ou stylistiques
Heidegger, à l'époque, n'était pas au courant de cette action de sauver les manuscrits.
Ah, devant Breda.
Il n'a pas contacté Heidegger, qui aussi était un ancien...
Peut-être Fink a évoqué ensuite, mais en tout cas, non, Van Breda, on n'a pas contacté Heidegger. En tout cas, non. Et même si Heidegger, à l'époque, bien évidemment, n'avait plus le même rôle qu'en 1933-34, même on dit qu'il était lui-même surveillé, et que beaucoup de gens, notamment Rosenberg, tout ça, c'est possible. Mais en tout cas, non, Van Breda n'a pas eu l'idée, qui aurait été un peu étrange quand même, parce qu'il n'aurait pas pu forcément savoir si il avait fait véritablement une apostasie.
S'il aurait pu faire confiance,
Donc, par contre, Fink, qui avait toujours des relations avec Heidegger, aurait pu évoquer, parce que Fink était au courant des démarches de Van Breda.
Et puis peut-être que Madame Husserl aurait été moins disposée à faire rentrer, j'imagine.
Parce que le nom de Heidegger dans la maison de Husserl était un peu tabou.
On ne peut plus vraiment prononcer depuis 1931.
Et ça, Van Breda le savait quand même.
Moi, je voudrais faire un commentaire en revenant sur le mot que vous avez avancé tout à fait au début, illisible.
Oui.
Voilà, illisible, parce que je le trouve un peu ambigu d'ailleurs. Pour moi, un manuscrit illisible, ce n'est pas ce que vous décrivez, mais peu importe. Disons que ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que le caractère hermétique des documents ne me paraît pas du tout un frein à la passion de la recherche.
Ah oui, bien sûr.
Ça vire d'aiguillon,
même. Vous avez dit ça, mais... Alors, je dirais plutôt même au contraire, parce que je vous donnerai un exemple, c'est celui du français Peillot, qui a, vous connaissez, qui est allé sur la route de la foi en 1935, me semble-t-il, a récupéré une case entière de rouleaux manuscrit sur le bouddhisme. Alors, ce truc-là, il n'y a que quelques chercheurs qui sont capables, une poignée de chercheurs, et il y en a pour des générations avant de d'exploiter tout ça. Mais ça sert de base à des choses plus accessibles.
Bien sûr.
Donc, je suppose que pour les textes de Lucien, là, il sera de même. Il y aura des retombées, même si. C'est réservé à des spécialistes. Oui. Il y a des retombées après ça.
Ah oui, bien sûr. Non, mais, oui. Mais le terme illisible. Alors, le roman prend le parti pris stylistique aussi. Habituellement, dans un roman classique, on sait très bien ce que pense un personnage, on sait très bien ce que pense l'auteur, etc. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que je fais passer les pensées des personnages dans ma. Donc, quand je dis illisible, on ne sait pas qui parle. Est-ce que c'est Lehmann qui, s'il trouvait ces manuscrits, les trouverait illisibles, voilà, etc. Et très souvent, par exemple, même les prises de position, même le vocabulaire, je ne veux pas qu'on identifie très simplement qui parle. Donc parfois, le style peut être parfois déroutant parce que y a pas, y a très peu de dialogue, je ne fais pas parler. Donc c'est que du. Indirect, etc. Et donc, on ne sait pas vraiment qui dit. Quand j'emploie un adjectif, on ne sait pas si cet adjectif, c'est celui qui serait employé par le personnage dont je parle, ou si c'est mon propre objectif à moi. Ce qui fait que parfois, d'ailleurs, j'interviens entre parenthèses en indiquant pour clarifier. Donc là, quand je dis illisible, ce n'est pas moi qui pense qu'ils sont illisibles, bien évidemment. C'est ils auraient été illisibles pour le quidam qui serait tombé sur ces textes et qui n'aurait pas pu les lire. Donc c'est une sorte d'illisibilité factuelle. Mais évidemment, ils ont été transcrits, ils sont lisibles. Après, leur degré d'interprétation, ça, c'est une autre question, etc. Mais parce qu'il y a un passage où Lehmann essaie, alors déjà de lire les idées 1, ça donne une sorte de migraine et tout. Donc les manuscrits inédits qui sont encore plus corsés, parce que c'est vraiment des textes de recherche assez... assez ardu, donc là, mais bien évidemment, c'était pas un jugement de valeur de ma part. Et d'ailleurs, même dans le texte, souvent, on ne sait pas où je me situe. Vous voyez, je veux pas qu'il y ait les bons, les méchants, et qu'on sache ce que l'auteur pense, et qu'on sache ce qu'un père. Donc, même stylistiquement, il y a une sorte d'indétermination. Souvent, on ne sait pas qui parle et qui est.
Le bon par excellence dans votre roman,
c'est
le
Grand Bréda. Oui, bien sûr. Non, mais là,
je pense à le connaître un petit peu. Alors, je trouve qu'il ressemble pas du tout à Tintin. Tintin n'est pas un naïf, tout au contraire. Et c'est pas sa grandeur qui le protège. Tintin, c'est sa connaissance de la psychologie, voire même de la psychologie criminelle, parce tandis que votre c'est pas la grandeur qui protège Tintin, contrairement à.
Ça se discute parce qu'il y a des.
Tintin est protégé par sa grandeur.
Est-ce que c'est encore Tintin ? C'est la question. Il y a un débat tintinophile pour savoir si les Picaros c'est encore Tintin ou pas.
Non, mais c'est pas quelqu'un qui suspecte le mal. Par exemple, il donne son amitié à des personnages, ça lui joue des tours dans les premiers albums, etc. Donc, il est. Oui, mais parce que il arrive ensuite à
Non mais
c'était Tintin au sens un personnage comme ça un peu sans psychologie, sans expressivité, qui au fond
sur lesquels je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que le monde s'agite autour d'eux,
c'est ça.
Ils sont une sorte de pivot, et il y a tout un tas comme s'ils étaient des catalyseurs qui produisaient.
Et puis qui plus est, pour filer le rapport, Jean-Luc Marion avait écrit un livre de phénoménologue sur Tintin, et Tintin était l'expression de la réduction phénoménologique. Alors c'était.
En fait, il avait une thèse, thèse un peu voilà. Pour l'occasion. Tintin, disait-il, était.
C'est le sujet transcendantal.
C'est l'équivalent du sujet transcendantal. Ça, c'est lui qui. Ça, sa fonction.
Mais dans le roman, je ne parle pas de Tintin. Là. C'est juste pour expliquer un peu le.
Mais ça rejoint exactement ce que
le caractère.
C'est des personnages qui ouvrent le monde, en fait.
Non incarnés, finalement. Parce que même quand ils s'occupent du chat au début, ils s'occupent du chat un peu, mais ils ne s'en occupent pas vraiment. À un moment donné, le chat disparaît. Ça l'affecte pas vraiment, donc
pas d'attachement.
Il y a aussi un point que je voudrais vous soulever in fine, c'est la comparaison avec le roman policier, et en particulier ce qui a été dit sur le roman de la
Le nom de la rose.
Le nom de la rose. Alors,
qui a été lu comme un roman policier.
Précisément, il y a un moine franciscain. Le point d'ancrage, c'était le manuscrit. Alors, il y a un manuscrit aussi, mais le moine. Et le, donc, il y a
de Baskerville.
Il y a un manuscrit qui est cherché et un moine franciscain. Qui ne le cherche pas d'ailleurs, mais ce moine franciscain, c'est une sorte de Sherlock Holmes avant la lettre. D'ailleurs, son nom, Guillaume de Baskerville,
bien sûr.
C'est un clin d'œil à Conan Doyle.
Évidemment.
Oui, et à Guillaume d'Ockham, le philosophe réaliste.
Ce que je voulais dire, c'est réaliste, que c'est un roman policier parce que le détective trouve le manuscrit qui est le mobile du crime et l'assassin qui n'est autre que le bibliothécaire. Tandis que dans votre roman, il n'y a pas
bien
ça.
Sûr.
C'est plutôt, s'il fallait le classer, je dirais que c'est plutôt un roman d'espionnage.
Alors,
plus généralement, c'est un roman d'aventure.
Oui, il y a un certain suspense qui est...
Comme
on sait globalement que les manuscrits ont été sauvés, il suffit de taper Archive Husserl, on voit, le suspense, c'est pourquoi Lehmann n'est pas intervenu. Enfin, c'est pourquoi au fond, Van Breda n'a pas été arrêté et les manuscrits n'ont pas été saisis.
Parce que la machine est mise en marche.
Donc c'est le suspense est là. Mais c'est plutôt un roman noir, au fond, aussi par ce traitement atmosphérique, expressionniste. Un peu Fassbinderien, si je dois faire appel à, comme ça, c'est-à-dire de l'excès d'une sorte de monde un peu interlope, surtout de Lehmann, comme ça. Donc, il y a quelque chose, ou Dixien, ou. C'est pas un roman policier. Je verrai à Niort si je me fais écharper ou pas.
Le rapprochement que j'avais.
Des vrais auteurs de romans policiers.
Le rapprochement que j'avais suggéré, c'est aussi parce qu'il me semble que dans les deux cas, on avait, indépendamment de la question de savoir si c'est policier ou non, cette mise en roman, si je puis dire, des accidents de la transmission. Les accidents de la transmission du savoir élaboré, livresque, à travers le chaos de l'histoire.
La dangerosité du savoir.
Et si on veut, la dangerosité du savoir, dans cet aspect-là, effectivement, mais aussi, pourquoi ne dispose-t-on pas de la poétique, la première moitié de la poétique d'Aristote, et pourquoi dispose-t-on des manuscrits de Husserl?
D'ailleurs, les manuscrits des philosophes sont souvent l'objet d'histoire. Par exemple, ceux de Nietzsche sont très intéressants. Comment la sœur de Nietzsche s'empare tout de suite, écarte les amis de Nietzsche et créer des archives Nietzsche qu'elle oriente dans un sens. Donc souvent, les textes des philosophes qui laissent à leur mort sont l'objet comme ça de convoitises, de débats, de tensions, même dans l'Antiquité et encore de nos jours. Donc, et sans doute, ça sera encore... Alors forcément, là, les circonstances historiques sont exceptionnelles, quoi. Et donc, aux circonstances de sauver ces manuscrits, il y a aussi tout le contexte qui fait que l'acte de Van Breda prend un caractère de micro-exceptionnalité, on pourrait dire. En fait, c'est une sorte de héros ordinaire. Oui, peut-être, oui. Mais d'ailleurs, dès le début, je le compare à un personnage, parce que dans les années 30, aux États-Unis, il y a la naissance du film noir, du film de gangster, et d'emblée, je dis, parce que c'est un beau gosse, comme on dit, Van Breda, c'est un bel homme, etc., avec une belle tête et tout, et d'emblée, je dis qu'il a un côté un peu acteur américain, comme ça, il fume ses cigarettes, et je l'aurais très bien vu dans un film comme ça, de gangster à la même époque, sauf que lui, au fond, c'est un père franciscain, philosophe. Donc je joue avec ces petites allusions. Il y a beaucoup d'anachronismes dans le texte aussi. Pour ne pas faire roman historique, je ne voulais pas du tout faire un film à costume. Donc pour éviter de faire un récit historique un peu compassé, un peu convenu, je joue beaucoup avec des anachronismes. J'utilise un vocabulaire contemporain pour parler d'événements du passé. Je prête à certains individus des références qu'ils ne pouvaient pas nécessairement avoir, etc. Donc, pour un peu aussi faire que le lecteur soit plus actif face au récit plutôt que d'être face à un récit, simplement d'apprendre des choses, mais un peu qui s'interroge aussi sur la manière dont on dit l'histoire, dont on raconte l'histoire.
À propos de la question de la transmission qui était évoquée à l'instant, une question peut-être un peu latérale, est-ce que la bibliothèque de Louvain n'a pas été bombardée, ou du moins un des bâtiments, comment dire, durant la Première Guerre?
À la Première Guerre mondiale.
À la Première Guerre, oui. Et donc, si c'est le cas, est-ce que Van Breda effectivement le mentionne? Et si c'est le cas, effectivement, est-ce que l'image d'une bibliothèque saccagée, de livres brûlés, est-ce que ça n'a pas pu effectivement avoir cette place dans son engagement? Dire après la Première Guerre, on a le bâtiment de Louvain, on a Reims, c'est autre chose, mais en Belgique, on a Ypres ravagée. Et donc ça, c'est l'imaginaire sur ces gens.
Alors Van Breda, il naît en 1909, donc il a à peine connu... Mais je vous avoue que j'ai jamais vu cet aspect-là évoqué, c'est-à-dire le traumatisme de la Première Guerre qui aurait pu renforcer cette volonté comme ça de sauver...
Ouais, ça habite
oui, peut-être.
C'est certain.
Sans doute. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'après, je l'ai dit, lorsque les manuscrits sont en sûreté grâce à la valise diplomatique, le problème va se poser... En 40, il va falloir... Et même Madame Husserl va être cachée dans un couvent catholique. D'ailleurs, elle va se convertir au catholicisme, parce qu'elle était convertie au protestantisme, donc, parce qu'elle était juive, etc. Enfin, et même ensuite, c'est-à-dire que dès 39-40, il y a des doubles qui viennent à Paris, et là, rebelote en 40. Et donc, il y a eu des archives Husserl à New York. En fait, les archives Husserl se sont déplacées pour... s'éloigner des armées du Reich, etc.
D'ailleurs, ça a essaimé.
Oui, ça a essaimé les textes à New York. La diaspora juive et même d'autres ont commencé à avoir ces manuscrits à la New School of Social Research à NYU, à New York University, pour les mêmes raisons. Donc en fait, l'histoire des archives Husserl, elle est encore plus folle. D'ailleurs, Van Breda en parle un peu dans son récit, parce qu'il y a ensuite l'épisode de Louvain, puis les sauvetages successifs.
Donc, et la fondation dans la foulée des
différents... Oui, alors pendant la guerre, c'était caché dans des fermes, les manuscrits.
Et donc, au moment effectivement de la conflagration entre les Flamands et les Wallons, où sont passées les archives?
Alors, les archives sont restées. Non, les archives sont restées à Leuven.
Toujours restées à Leuven.
Par contre, l'ISP, l'Institut supérieur de philosophie, qui avait été fondé par des francophones, lui est parti à Louvain-la-Neuve.
C'est ça.
Donc il y a une sorte de schisme. Hein. Enfin, de schisme. En fait, bon. Ce sont les Flamands qui ont foutu les Wallons d'or. Hein.
Mais les archives n'ont jamais quitté Leuven l'ancienne. Oui.
Donc à Louvain-la-Neuve, il y a quand même des phénoménologues. Hein. Il y a toujours une tradition. Il y a la revue, etc. Donc c'est quand même une université importante pour la phénoménologie. Mais les archives sont restées.
Il n'y a pas de centre d'archives à propos.
Les archives sont restées à Leuven et la plupart des chercheurs, enfin quasiment aucun chercheur n'est francophone. Enfin, certains le sont parce que vous savez qu'ils doivent apprendre les deux langues, etc. Mais c'est toujours été une direction flamande et.
C'est ça, flamande ou allemande d'ailleurs.
Flamande ou allemande, Isling, Bernet. Là, c'est une nouvelle directrice.
Là, c'est Julia Janssen. Mais peut-être juste dire un mot du réseau actuel, parce que ça fait partie de l'œuvre de Van Breda, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de... Enfin, il s'est pas contenté. Le sauvetage a débouché sur la construction quand même institutionnelle d'un réseau d'archives. Tu parlais à l'instant du réseau américain. Oui. À Buffalo, dans l'État de New York, en 1947, a été créé un centre d'archives Husserl. À Fribourg, la ville d'origine, en 1950... par Finck, création des archives de Fribourg, à Cologne en 51, dans la foulée, et il y a la question effectivement des archives de Paris. Je peux peut-être prendre quelques minutes, parce que là aussi il y a du rocambolesque, alors ce n'est plus Van Breda, mais les archives de Paris dont j'ai l'honneur de faire part, sont installées à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, et sont le résultat d'interactions multiples et très complexes qui ont eu lieu dès l'époque, ou peu de temps après la fin de ton roman, dès la fin des années 30, entre un certain nombre de philosophes français intéressés par la phénoménologie et Van Breda. Et si on doit faire schématiquement, pour ne pas prendre trop de temps, il faut souligner le rôle de deux ou trois personnes, Maurice Merleau-Ponty en tout premier lieu, qui, préparant sa thèse qui a été publiée en 1945 sous le titre, c'est le fameux livre « La phénoménologie de la perception », avait pris des contacts dès la fin de l'année, dès les années 38-39 avec Van Breda. Merleau-Ponty fait un séjour à Leuven en avril 39. Et à cette occasion-là, les contacts qu'il noue avec Van Breda permettront le dépôt, pendant la guerre, le dépôt de manuscrits à l'École normale supérieure à Paris entre 44, ça commence pendant la guerre, et ça se poursuit jusqu'en 48-49. On a 2100 pages d'inédits déposées dès 1944 à l'École normale supérieure à Paris, grâce notamment aux interventions de Merleau-Ponty. Alors c'était des inédits, c'est-à-dire c'était pas des manuscrits, c'était des transcriptions. Alors à Paris, nous n'avons jamais eu de manuscrits originaux. Nous avons eu des transcriptions ou des copies, mais qui étaient inédites parce qu'en l'occurrence c'était toujours du matériau brut qui n'avait pas été publié. Alors Merleau-Ponty, en premier lieu, lui-même avait fait le trajet et revenait avec des copies. Il faut mentionner. Un deuxième étudiant, une figure très intéressante, un philosophe vietnamien qui s'appelait Trang Duc Tao, qui était élève de l'École normale supérieure entre 39 et 44. C'est une date un petit peu lourde. Et puis, 39 à 44, élève à l'École normale supérieure, prépare un mémoire de DEA ou de début d'une thèse sur Husserl, fait à son tour un voyage à Leuven. À Leuven, il essaye de réactiver en 1943 les efforts qui avaient été faits en 1942 par Van Breda pour trouver en France une structure lui permettant d'accueillir les manuscrits. Bon, Van Breda s'est heurté à quelques refus d'un certain nombre d'institutions ou de dignitaires académiques français en pleine guerre. Donc Trang Duc Tao essaye de renouveler tout cela. On lui confie 3000 pages de manuscrits. Il revient en France. Le projet capote de nouveau. Il retourne à Leuven avec une moitié des manuscrits qui lui sont rendus, et au final, on décide à Leuven, peut-être à cause de la situation chaotique aussi sur place, de lui confier à titre personnel un certain nombre, ainsi qu'à Merleau-Ponty, de manuscrits qui seront donc déposés, entassés à l'École normale supérieure. C'est cette espèce de dépôt un peu sauvage de manuscrits hors... de transcription de manuscrits, un dépôt un petit peu sauvage hors de tout cadre institutionnel défini, à vrai dire, qui a permis à Jean-François Courtine, naguère, de parler d'une proto-fondation des archives Husserl, c'est-à-dire sous une forme institutionnellement floue ou vague, mais enfin, un certain nombre de milliers de pages étaient déjà déposées à l'École normale supérieure. Et il faut attendre 57, ce qui est quand même assez tard, que le grand colloque de Royaumont ait lieu autour de sur la phénoménologie husserlienne.
Donc vous avez des archives sonores d'ailleurs que vous pouvez entendre. On entend la voix de Van Breda,
exact,
interrogée par le journaliste, celle de Levinas.
Etc. Voilà, on entend des voix, c'est très intéressant. Et ce fameux colloque de 57 est l'occasion pour Van Breda de rediscuter de vive voix avec un certain nombre de philosophes français intéressés par ce projet et qui réussissent à trouver assez rapidement pour le coup une forme institutionnelle. Je vous passe le détail. Toute la question sera de savoir sous quelle forme est-ce qu'un centre d'archives pourra naître autour de la Sorbonne. Est-ce qu'il faut que ce soit un centre de la Sorbonne? Est-ce qu'il faut que ce soit une annexe de la bibliothèque de la Sorbonne? Est-ce qu'il faut que ce soit mis sous la responsabilité du bibliothécaire ou la responsabilité d'un professeur, etc. Les questions sont nombreuses. En mai 58, le centre Husserl est fondé à la bibliothèque de la Sorbonne. Et permet d'accentuer le rythme des dépôts de microfiches et de transcriptions de manuscrits. La dernière personnalité qu'il faut évoquer, c'est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui, après la mort de Merleau-Ponty en 61 et la mort de Gaston Berger en 60, dirige le centre Husserl. Et c'est lui qui va en quelque sorte créer une deuxième composante qui sera rattachée au CNRS, qui s'appellera Centre de recherche sur Husserl. Et il va y avoir pendant plusieurs années la cohabitation entre le centre documentaire à la Sorbonne, le centre de recherche créé par Ricoeur, et les statuts sont un peu flous, disons, jusqu'au milieu des années 80, et les deux composantes, en quelque sorte, deviennent Archives Husserl de Paris sous la forme que nous connaissons aujourd'hui à l'École normale supérieure, c'est-à-dire sous la forme d'une unité de recherche du CNRS, en janvier 86, lorsqu'ils sont refondés, sous cette forme-là, avec à leur tête Jean-François Courtine. À ce jour, aujourd'hui, nous avons une bibliothèque de recherche qui contient 340 cahiers renéotypés de transcriptions de manuscrits husserliens, qui sont consultables par les étudiants sur demande, sur autorisation du directeur. Nous avons, comme tous les archives Husserl, Buffalo, Cologne, une bibliothèque spécialisée, bibliothèque complète de littérature, des œuvres complètes de Husserl et de littérature secondaire.
À l'École normale.
Oui, aux archives Husserl de l'École normale supérieure, voilà.
Une bibliothèque quasi complète sur Heidegger, une bibliothèque quasi complète du mouvement phénoménologique en général, plus un fonds concernant les courants philosophiques, disons, en débat avec lesquels la phénoménologie s'est constituée. Herméneutique, néo-kantisme, voilà. Et notre activité scientifique consiste essentiellement dans l'organisation de séminaires de recherche, de colloques, qui débouchent sur des publications.
Séminaires de traduction.
Séminaires de traduction, bien entendu. Il y a un fameux séminaire Husserl qui a lieu annuellement. Publication des chercheurs, monographies, traductions, ouvrages collectifs. Le développement de l'École normale supérieure permet maintenant aussi à ce que des étudiants qui préparent des doctorats soient associés aux archives Husserl. Nous sommes en interaction avec les autres centres, notamment Leuven et Fribourg, et nous accueillons évidemment des étudiants étrangers. Voilà. Quant à Leuven, eh bien, ils sont dans une période qu'on peut appeler de transition, parce qu'au départ, Van Breda avait créé les archives pour éditer, diffuser la pensée de Husserl. Sur la base des manuscrits, établir des tomes d'œuvres complètes qui, avec les canons de l'édition scientifique la plus rigoureuse. Et à ce jour, 42 tomes d'œuvres complètes sont sortis, 10 tomes de correspondance. On commence à voir la fin. Tout n'a pas été édité, mais les choix qui ont été faits parmi les différents manuscrits sont des choix qui ont été raisonnés, justifiés. Il est probable que tout ne soit pas définitivement édité, mais que les tomes des œuvres complètes représentent la publication de ce qu'il y a de plus significatif et de plus intéressant. Et après, les chercheurs qui souhaitent musarder dans les manuscrits pourront toujours. Et la question se pose aujourd'hui de ce qu'il doit être l'activité des archives maintenant que l'édition arrive quasiment à son terme. La question de la numérisation, vous vous en doutez, donne une espèce de nouvelle jeunesse peut-être à la question éditoriale. Faut-il numériser les manuscrits pour les protéger parce qu'ils sont écrits sur des papiers qui s'abîment à cause de la composition du papier de l'époque? Ça devient friable et ça s'abîme. Faut-il les numériser? Une fois qu'ils sont numérisés, faut-il les mettre en libre accès? Faut-il numériser les tomes des œuvres complètes qui ont été éditées depuis 1950? Il existe aujourd'hui des numérisations pirates qui circulent. Oui. Que tout le monde possède, et les archives ont décidé d'accompagner, plutôt que de faire la police, d'essayer d'accompagner de la manière la plus intelligente qui soit cette diffusion numérique. Et puis, voilà, comment orchestrer en quelque sorte le travail international autour de autour des grands représentants du mouvement phénoménal.
La question s'était posée de réintégrer les archives à Fribourg, enfin.
Oui.
Et bien évidemment, on ne l'a pas fait en hommage à Van Breda.
C'est ce que j'allais dire, en hommage à Van Breda.
Comme Van Breda... Il aurait été dépossédé ensuite de son œuvre si, bien évidemment, dans les années 60, 70, même encore de nos jours, on aurait pu très bien dire, mais Fribourg aurait pu accueillir tout ce qui était à Leuven.
Dans la logique du retour, c'est ça, comme on a aujourd'hui, retour dans les pays d'origine, des œuvres d'art.
En Afrique, etc., le retour des manuscrits.
En attendant, c'est toujours à
Leuven. Ce qu'il faut dire, c'est que Van Breda a fait tout cela parce que il a quand même pris un risque par rapport à son université. C'est un jeune doctorant, il a 26 ans. Il oblige son institution à accueillir... Enfin, c'est des dépenses et un coût administratif et économique très important. Et ce que j'ai appris un peu, c'est que beaucoup au sein de Leuven lui en ont voulu. C'est-à-dire il a mis un peu les gens devant le fait accompli. Et donc, il a été obligé très rapidement de créer un réseau international parce que localement, il était quand même contesté. Et sa légitimité venait plutôt du réseau international qu'il a su créer. C'est pour ça qu'il a donné très rapidement à Merleau-Ponty, Trans-Tao, parce que, pour dire, voyez, des Français, des Américains s'intéressent, parce que lui-même était contesté. Parce qu'au fond, c'est comme si l'un de mes doctorants, ouais, 26 ans, il commence sa thèse, tout d'un coup, il arrive devant le doyen, il dit « voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et bien évidemment, le président de l'université, ou le recteur, ou le doyen, lui dit « mais mon bon ami, enfin, c'est... » Donc il y avait un côté un peu... Et comme il a senti cette fragilité de sa position, alors il restait directeur jusqu'à la fin de sa vie, etc., il a consolidé sa position plutôt à l'extérieur que localement.
Et d'ailleurs,
d'où encore peut-être la fragilité.
Mais même aujourd'hui, il y a des choses qui sont pas réglées. Aujourd'hui, il y a quand même deux ces trucs bicéphales. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si je ne me trompe pas, il y a la direction des archives et il y a la direction à côté de l'Institut de philosophie.
Oui.
même bâtiment, oui, même locaux, oui, mais oui, ce n'est pas exactement la, oui, même, oui, la même pyramide, oui, ni la même... Oui. Voilà.
Donc von Breda, au fond, ensuite, a été un habile politique, quoi, parce qu'il a su, comme ça, consolider les archives Husserl, parce que, bien évidemment, ça a été beaucoup d'argent. Il a fallu recruter des gens, faire une édition scientifique, et au début, voilà, Monseigneur Noël, qui était le doyen de... En 1938, Van Breda devait revenir avec quelques manuscrits qu'ils auraient traduits, ils auraient publiés dans la revue. Enfin, c'était, voilà, c'était pas grand-chose, quoi. Puis l'autre, il lui ramène...
Les 42 tonnes de complètes.
Il lui ramène 100 kilos de manuscrits, deux chercheurs, une veuve. Bon, je comprends, même si c'était louable, bien évidemment, il n'a pas remis en cause le bien fondé, mais enfin... On sent que Van Breda a toujours eu une position. Et quand j'ai commencé à mon enquête, même des gens trouvaient encore, presque très longtemps après, que c'était quelqu'un un peu d'ambitieux, de colérique, comme ça.
Il a terminé sa thèse, non ?
Ah non, non, justement. Non.
Le grand œuvre, c'est...
Non,
le...
en fait, ensuite, il n'a quasiment rien écrit sur Husserl. Même en 1938, il abandonne sa thèse pour se consacrer au sauvetage de ses manuscrits. Et ensuite, son œuvre va être la constitution de l'institution et lui-même. Enfin, non, je crois.
Et puis les grands principes éditoriaux aussi.
Ouais, il a très peu écrit de textes philosophiques. Et,
en tout cas, il y a eu une belle réflexion aussi sur, justement sur les principes éditoriaux. À quoi ça devait ressembler, comment on devait publier. Parce qu'il y a toutes sortes de textes. Il y a les, comment dire, dans l'héritage, il y a les, il y a les œuvres, les livres qui ont été publiés par Husserl de son vivant. Il faut en donner une édition de référence. Il y a les cours de Husserl, il y a les manuscrits qui sont vraiment des manuscrits de recherche complètement exploratoires, et évidemment, les tomes, il fallait décider d'une politique éditoriale.
Les textes n'ont pas le même statut.
Exactement, les textes n'ont pas le même statut. Tout n'est pas aussi important. Ça, c'est l'illusion de perspective, enfin, c'est l'illusion des chercheurs, des jeunes chercheurs qu'on a été, qui croient toujours qu'on va tomber sur le manuscrit, qu'il y a toujours un manuscrit qui nous attend dans lequel Husserl aurait dit ce qu'on a nulle part ailleurs, ce qui n'est pas le cas.
Comme un manuscrit de recherche, il se peut que Husserl se soit amusé à soutenir telle thèse dans un manuscrit qui en fait n'est pas une thèse qu'il aurait acceptée, un peu comme nous, quand on prend des notes de proportion gardée, on peut développer, mais juste pour voir, et puis enfin on raye en disant mais non. Et donc, les manuscrits, il faut qu'on les lit, il faut toujours les replacer dans un contexte plus général. Ce sont vraiment des textes presque d'expérimentation philosophique, et on ne sait pas toujours, est-ce que cette thèse développée dans ce manuscrit, est-ce qu'elle est vraiment acceptée, validée. Les textes publiés du vivant de Husserl, ils sont validés, parce qu'ils les ont relus et tout. Là. Donc ces manuscrits sont toujours un peu avec des pincettes. Quoi.
Pour l'anecdote, il y a quelques jours, dans un séminaire de traduction aux archives, on a traduit, on s'est arraché les cheveux à plusieurs sur une page d'un manuscrit particulièrement absconce, et tout en sachant très bien qu'il y avait une note marginale, c'était indiqué, une note marginale de Husserl qui disait dans tout le paragraphe « Tout ceci est à peine digne de la corbeille à papier ». Donc ça veut dire que... voilà. Mais ça a été publié avec la notation scrupuleuse que tout ceci était considéré comme nul par Husserl, mais enfin... On le regarde, on le traduit quand même, mais voilà. Alors donc, effectivement, ça demande un travail qui n'est pas, qui n'est pas identique pour tous les niveaux d'écriture et pour tous les manuscrits.
Je pense peut-être on peut poursuivre, si vous voulez, autour d'un verre, parce que c'était vraiment passionnant. Passionnant, et on a senti votre propre passion. Déjà.
Parce qu'on vit avec lui quasiment tous les jours aussi.
Vous étiez vraiment dedans, et je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Vraiment un très très grand merci.
Mais merci.
Merci de votre accueil aussi. Hein,
merci pour les deux philosophes qui n'étaient pas du tout ennuyeux.
Merci beaucoup. C'était une belle réunion.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci de votre accueil.